Toujours aller au bout des trucs, toujours. Toujours aller au bout des trucs, toujours refaire les trucs à fond. Voilà la philosophie, voilà la leçon de philosophie à 1,50€, même pas, à 15 centimes d'euros du jeudi matin. Merci Gaël San. Je vois plein de gentils messages. Qu'est-ce qu'on a échangé? Oh, ça y est, Gaël San, je crois savoir de qui tu es, parce que je vois un pseudo sympa qui fait allusion à peut-être une rencontre IRL. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on sort dehors, on rencontre des vrais gens, on échange avec des vraies personnes qui waouh, voilà, et je crois effectivement me rappeler d'une rencontre, si je dis pas de bêtises, genre hier fin d'après-midi, juste avant, un petit peu pendant un rendez-vous professionnel. Ok, je crois que c'est ça. Ok, ben plaisir partagé. Ouais, c'est vrai qu'on sort dehors, c'est un peu redondant, non? C'est le galant qui le dit gentiment. J'ai dit on sort dehors et qui rigole en mode de, pas trop se moquer de papy, mais si on sort dehors, ouais, c'est vrai que c'est un peu redondant. Ouais. C'est comme on descend en bas, on monte en haut, on sort dehors. En général, on sort. Ouais, ouais. En même temps, non, on peut sortir d'une pièce pour aller dans une autre. Ah! Ben, Clamakin l'écrit à l'instant. Les grands esprits. Genre, voilà, un de mes petits garçons fait une énorme bêtise, vraiment un truc, et je fais. Sors! Sors dans ta chambre. Hein, c'est pas faux? Samuel Vimer, j'aime le chat de Samuel Etienne. Il y a plein de gens qui me disent bonjour. Descendre. Oh non! Je ne vous lis pas le message dans B16 à propos de descendre en bas. Je ne vous le lis pas, n'insistez pas, ça ne se lit pas. Je rappelle que parfois il y a des mineurs dans cette émission, même le matin, c'est-à-dire des mineurs qui sèchent l'école. Donc je ne lirai pas ce message. Oh, c'est trop gentil, vous êtes plusieurs à vous interroger, à vous inquiéter quant à Malo qui allait chez le dentiste hier. Juste après le stream, voilà. Ils sont venus pop leur tête tous les deux, là, les zigotos, là, en fin de stream, un petit peu précipité d'ailleurs hier, je suis désolé. Merci beaucoup, le rendez-vous chez le dentiste s'est super bien passé, Malo se brosse super bien les dents, il n'a pas de carie, il est en pleine forme, voilà. Allez, je remonte un petit peu dans le message, félicitations à The Man of Corrèze 18, The Man of Corrèze. On se demande bien dans quel département vis-tu, ou tu es peut-être originaire. Bravo pour la licence d'histoire obtenue ce matin avec What? Mention bien. Waouh, la classe. Béné, merci beaucoup pour le 15e mois d'abonnement. Oh, c'est trop mignon, merci. Matt, merci pour le 22e mois d'abonnement, on est au maximum. Personne n'est à 23, tu es au max 22. C'est très impressionnant. Sarah, merci beaucoup pour le 16e mois d'abonnement. Coucou à Mamie Monique, coucou au chat aussi, merci d'être là. Ouais, merci Isionir pour le Prime, merci du soutien. Ouais, je vous lis. Ça monte, oui. Plus, Mystery, Joff, puisse le semblant de démocratie française reposer en paix. Oui, Mon ami, je sais de quoi tu parles. Tu parles de la proposition de loi Liot, totalement vidée de son contenu, qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Eh bien, c'est à la une de Libération et de l'UMA. Et on en parlera, c'est prévu. Je crois même qu'on va commencer par ça. Clamakin, qui a le nez tout rouge et les yeux qui coulent, nous écrit dans le chat « Bonjour, les petites fleurs des montagnes ». Au début, je pensais que c'était pour nous, genre c'était nous un petit peu les petites fleurs des montagnes. Je trouvais ça trop mignon. Et en fait, pas du tout. « Je vous hais avec votre pollen qui m'irrite les yeux ». Voilà, ouais, c'est la saison. Hein. C'est très agréable. Anthony, bon retour parmi nous. Anthony Garcia. Je suis un peu stressé. Je suis un peu stressé. Rien à voir avec toi, Anthony. Je suis un peu stressé parce que ben, demain... Tiens, ben, je vais vous mettre le visuel. C'est demain soir. Je suis pas trop stressé. Si, je suis très anxieux de nature. Quand j'étais enfant, je suis très anxieux. Mais j'ai bossé là-dessus et je me suis organisé une vie un petit peu pépouze, un peu paisible, avec plein de sources de bonheur et d'équilibre. Et au final, donc aujourd'hui, le stress a quasiment disparu de ma vie. Je dis quasiment. Parce que de temps en temps... Comme j'aime pas trop la routine, je me lance dans de nouvelles aventures. Et là, le petit stress, il revient. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il fallait que je le fasse, ce truc? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce qu'ils vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on va partager ce truc? Voilà. Et donc demain, c'est un peu une première. C'est pas un peu une première, c'est une première. C'est ma nouvelle émission. Ça s'appelle « Ça me plaît ». Excellent jeu de mots. Puisque ça me plaît de découvrir l'univers des jeux vidéo. Je vous rappelle que la dernière fois que j'ai joué, c'était au 12e siècle. 1173 à peu près. Et que j'ai envie de m'immerger à fond dans cet univers que je trouve fascinant, de créativité, de plein de choses. Et donc, je lance une nouvelle émission qui s'appelle « Ça me plaît », puisque ça me plaît, et puis ça m'appelle Sam, et puis plaît, etc. Avec une petite faute, puisque normalement c'est « Ça me plaît », mais « Ça me plaît », eh ben ça fait plus de la blague. Donc c'est « Ça me plaît ». Normalement, la nouvelle émission est portée sur les fonds baptismaux. Waouh, j'adore cette expression. C'est-à-dire qu'elle est lancée en septembre prochain, c'est la rentrée. Oui, c'est ce vendredi, TechPike, je la lance à la rentrée, mais je fais deux petites émissions test, deux petites émissions bêta, comme on dit, voilà, pour un peu tester le truc, voir si ça fonctionne, si ça marche, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je corrige, pour qu'en gros, l'émission, quand on la lance réellement en septembre, ben elle, est, voilà, elle est propre, elle est nickel tout de suite, en fait. Donc là, je fais deux émissions test, ce vendredi avec Kayane, que j'adore, et puis le vendredi suivant. Puis comme je suis un peu maniaque et un petit peu perfectionniste, ben en fait, je fais tout pour que cette émission ne soit pas du tout une émission test, mais une vraie émission cool tout de suite. Voilà. Donc on bosse d'arrache-pied avec l'ami Joe sur la partie réelle, mise en image, mise en son, tout ça, depuis quelques semaines déjà, et c'est demain soir 20h. Voilà. Je pense que je ne vais même pas streamer demain matin pour genre dormir. Oh, D-O-R-M-I-R, un mot incroyable, dormir, que j'utilise pas souvent. Je pense que je vais dormir demain matin. Je pense que je vais même un petit peu courir aujourd'hui et demain pour bien m'aérer, parce que j'ai vraiment envie que cette émission soit cool. Voilà. Donc on fait ça, merci TechPike pour le gentil message, c'est adorable. Ça va aller, tu vas juste avoir les doigts engourdis si tu hard try, merci Mistou, c'est super gentil. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai fait ce visuel, il est bien trop beau, hein. c'est pas moi qui ai fait ce visuel évidemment, il est bien trop beau. Voilà. Y a Crapkit qui m'écrit, c'est quoi ton main sur FS6? Ah, main, je l'ai. Personnage principal, ouais, je l'ai pas choisi encore. SF6, Street Fighter 6. Oh putain, je commence à comprendre. Cyril, j'adore la vanne. Je commence à comprendre le langage des gamers, c'est incroyable, c'est fou. Vous êtes 3 ans sur. Bientôt 3 ans sur Twitch, ça vient. Bonjour Samuel, le bel amour, c'est très gentil. Lumière soleil, c'est bon, je sais. Tu es celui ou celle qui nous parle d'amour. Voilà, oui petit sponsor là, effectivement, petit partenariat, effectivement, avec Intel et Aorus, voilà, qui m'accompagne. Il y a du prêt de bécane, il y a du prêt de machine, voilà, notamment. Et donc merci à eux et je les remercierai comme il se doit demain. Ouais, vous avez bien vu, bien noté, effectivement. Comme j'essaie de faire les choses bien, besoin d'un peu de matériel, donc voilà, ils sont là, les amis d'Intel et d'Aorus, merci beaucoup. Ne m'encourage pas, help Melma pour les jeux de mots, parce que celui-ci est vraiment claqué au sol. Mais je l'assume totalement. Voilà, il correspond très très bien à qui je suis, c'est-à-dire un vieux machin. Voilà. J'ai commencé à jouer de mon côté, non pas du tout. L'idée est que je découvre, y compris que je galère, y compris que je ne comprenne rien, y compris que je sois largué. C'est un peu ça. L'idée, c'est pas de s'entraîner en cachette, en secret pendant 15 jours à un jeu vidéo. Donc voilà. Bon, après, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps, donc ça m'est arrivé de de jouer à Street Fighter, notamment sur, sur borne d'arcade, quoi. Mais ça n'est pas le cas. Tu as quoi comme console chez toi? Yonea 80, bah, c'est très simple, je n'en ai pas. Je n'ai pas de console. Malo a une Switch, voilà. On a fait 2-3 parties de Mario Kart ensemble, mais je n'ai pas de console. Ce qui va changer, parce qu'évidemment, eh ben dans... Il y a Crabkid qui répond. Il a quoi comme console? Bah, une Atari 2600 que j'ai eu, ma première console, quand j'avais vers 12 ans, quoi, bien sûr. Ah, j'aurais dû la garder. Tant pis, je serai un dieu du rétro gaming aujourd'hui. Donc j'ai pas de console, mais en gros, à la rentrée, j'aurai toutes les consoles possibles et imaginables. Mais ce soir, on joue sur PC, je crois. Voilà. Ouais. Je voulais un petit peu et puis on va y aller, quoi. Est-ce qu'on va parler de rétro gaming justement dans cette nouvelle émission Gaël San? Oui, bien sûr. On va faire, l'année prochaine, on va faire 32-34 émissions, c'est une hebdo. Hein. Donc, évidemment, qu'on parlera un moment de rétro gaming, bien sûr. Merci Chrome le Déglingo pour ce pseudo de fou et ce très gentil message, quoi. Ah, merci. Alors, pour être un peu moins ridicule demain avec Kayane, il y a Lloyd. Qui m'écrit, il ne faut pas utiliser de verbe pour répondre, il faut dire direct je main tel personnage et pas mon main c'est ok, putain tu vois. Donc j'avais une maîtrise imparfaite de l'expression, ok, demain je pourrais tellement me la raconter. Je main, ok, je l'ai. Ma rigolote, je kiffe. Merci pour le 7e mois d'abonnement. Alexandra, bonne journée. T'as pris. Il y a des... C'est moi qui suis pas réveillé ou quoi? Il y a des messages que je n'arrive pas à comprendre en langage un peu ésotérique. Tu as prévu une manette et un stick. Pop. Niku Manga arrive avec tout ce qu'il faut. Voilà, elle est super contente de venir et moi aussi très heureux qu'elle soit la première. Et puis je vous réserve une autre petite surprise puisque vous l'avez compris, il y a deux émissions test et donc vendredi prochain. Dans 8 jours donc il y aura une deuxième émission avant les vacances bien méritées pour moi comme pour vous, moi pour dormir, vous pour vous reposer un peu de moi qui cause, qui saoule un moment quoi. Et donc il y aura une deuxième émission la semaine prochaine avec un autre jeu et avec un autre streamer ou un autre gamer ou une autre streameuse ou une autre gameuse, on verra. Ça se passe dans mon studio, Clément, ça se passe, c'est Kayane qui vient à la maison. Ce sera sur Street Fighter 6, ouais. Ce sera sur la dernière édition du jeu. Est-ce que je vais faire tous les types de jeux vidéo ou seulement jeux d'action? Ah, je vais tout faire, Samuel. Stratégie, gestion, RPG, hack and flash, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vois, je fais genre hack and slash. Avant, je vais tout faire, voilà. Tout. Oh, c'est trop mignon, il y a Judo qui se promène dans les champs avec son chien et qui nous écoute. Trop cool. Bonne promenade. Bonne promenade. Attends, je règle mon micro en fait. Bonne promenade. Ok, c'est parfait. Le son est parfait. Hop. Encore heureux, dit. Alors, ça dépend des départements. Hein, mais dans pas mal de départements, c'est. Et encore heureux nous le rappelle. Bien joué. Le dernier jour aujourd'hui, minuit, jusqu'à minuit ce soir, si vous êtes sur Internet, pour faire votre déclaration d'impôt. Bon, en fait, c'est déclaration de revenus pour payer des impôts. Exactement. Pour les retardataires comme toi, encore heureux. Oh, je te comprends tellement. Je déteste ce truc. Moi, ça me dérange pas de payer les impôts. Vous connaissez ma philosophie là-dessus. Oh, mais c'est remplir le truc, là. Pff, je suis perdu, les cases, les B27, les trucs, les machins. Je ne comprends rien. Ou alors, je fais pas assez d'efforts, je sais pas. Mais souvent, j'ai vraiment l'impression que malgré mes efforts, je suis toujours un peu à côté de la plaque. Parfois, je fais... ça doit être là, non? Avec Hélène, on se regarde, on remplit le truc. C'est, on met ça là? Là? Pff, t'es sûr que c'est le bon chiffre? Oh là là. Bon, voilà. Ce genre de... Je sais pas si ça vous parle, mais ça stresse un peu, quoi. Les impôts, ça va. Mais c'est la déclaration, quoi. Ça pourrait pas être totalement... Ça commence à être pré-rempli un peu. Mais en vrai, il y a toujours des trucs à rajouter, quoi. Mais faites le full pré-remplissage, quoi. Vas-y, genre, on lit et puis on signe, quoi. Ça. Faudrait ça. Ma compagne passe par un cabinet comptable, comme ça, on est tranquille. On dit que la machine est... Et que c'est un coup, ouais. Mais bon, même le cabinet comptable, il va demander tous les documents, hein. Puis les documents... Pff. Non, c'est pas la phobie administrative, Julio Franchut, mais avouez qu'une déclaration d'hier, enfin de revenus pour les impôts, c'est pas facile en vrai. Hein. HBay, il y a Tal Blaise qui me dit qui aime ça? Oui, c'est vrai, bonne question, qui aime ça? Peut-être des mecs qui kiffent en fait. Ah, je vais merci pour le deuxième mois d'abonnement et ce gentil message qui me touche. Marie Golot, je te remercie tout à l'heure, je le refais. Soleil, je ne t'ai pas remercié tout à l'heure, je m'en excuse. Merci pour le 16e mois d'abonnement. 5 mois pour Aline 41. 5 mois ou 5 mois d'ailleurs. Mais j'ai pas vu tous ces gentils subs du matin. Kiki Plan 02, merci pour le 4e mois d'abonnement. Merci à tous. Ah, ça me rassure. Il y a Dimento 13 qui écrit Atari 2600. Les jeux étaient super durs, on était super forts. Putain, moi, j'étais fort à ce truc-là. Maintenant, les jeux sont super faciles et on est super nuls. Donc, ça veut dire que mon niveau, mon très bon niveau sur Atari 2600, tu penses qu'il peut valoir quelque chose aujourd'hui? Tu penses que je vais tout casser? Tu penses que je vais de battre Kayane à Street Fighter? Salut Elford, merci pour le gentil message. La relaxation est offerte. Oui, c'est un stream relaxant. C'est-à-dire qu'on parle quand même des trucs les plus anxiogènes, les plus stressantes, les plus horribles du monde. Crise, drame. Catastrophe sanitaire, naturelle, etc. Et on arrive à rigoler quand même de tous ces trucs. Ok, il y a Maori qui dit conseil sur SF6, il faut appuyer sur les boutons très vite, aléatoirement, elle ne pourra rien faire. En vrai, imagine. Imagine, on fait genre 10 parties et je gagne les 10. En faisant n'importe quoi. On sait pas l'idée. L'idée, c'est de découvrir le jeu. Qu'elle me raconte, qu'elle me parle d'elle, bien sûr, de son rapport à ce jeu vidéo, au jeu vidéo en général. Vous avez bien compris que cette émission est un double prétexte pour moi, à la fois pour découvrir, j'ai envie de dire culturellement en fait, l'univers du jeu vidéo, et puis de jouer aussi un petit peu, quoi. En mode, c'est un boulot bien cool, quoi. N'oublie pas de déclarer ton château et ton yacht, me dit-on dans le chat. Je n'ai pas de château. Par contre, je sais pas comment pour le yacht, comment t'as fait, parce que je n'en parle à personne, il n'y a pas de photo, c'est bizarre. Ok, je pensais que les gens à Saint-Tropez étaient un peu discrets, et j'ai l'impression que ça bave un peu dans mon dos. Ok, je vais changer de port d'attache. Merci Sakadal pour le 8e mois d'abonnement. Bientôt l'accouchement. Donc je ne sais pas si tu parles d'un heureux événement ou du 9e mois qui arrive, mais dans les deux cas, ça me fait bien plaisir. Merci Pierre-Emmanuel Dastpunk pour le 4e mois d'abonnement. Bon, on lit les journaux. Pour ceux qui ne sont jamais venus ici, c'est un des trucs qu'on fait ici. Voilà, c'est bon, c'est un peu mon programme quotidien. Parfois, je ne peux pas faire le matin certains jours, comme quand je fais Question pour un champion, mais on essaie de le faire quasiment tous les jours. Et puis, on a d'autres choses, notamment l'hebdo Étienne, qui vient de finir sa saison 1 le vendredi et qui reviendra en saison 2, je l'espère, en septembre. Et des rencontres Étienne, et des... tu vois, oh, j'ai un petit stream dans un musée qui arrive bientôt, là, une nouvelle exposition Étienne. Ça fera la combien de tièmes ? On a fait la Fondation Louis Vuitton, on a fait le musée du Louvre, on a fait le musée d'Orsay, on a fait le muséum de Bordeaux, on a fait le musée du Quai Branly, on a fait le musée national des arts asiatiques, Guimet, il y a 15 jours, là, et eh bien, il y a un... Attends, oh, désolé. Vuitton, Louvre, Orsay, Bordeaux, Branly, Guimet. Donc ça fait 6 déjà. 6 expositions Étienne, 6 streams de 3 heures dans des musées, dans des expos. Et il y a une 7e qui arrive là en juin. Et on ira en région. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus. Voilà. Et puis il y a la revue de presse, bien sûr, qu'on essaie de faire tous les matins. Merci MP12 pour le 6e mois. Bon, on va y aller. Motherfucker me demande si France Télévisions, qui est partenaire de l'émission du vendredi, me demande une certaine audience pour l'hebdo Étienne. Non, il n'y a pas de clause d'audience. En vrai, ils sont cool, ils sont vraiment dans l'accompagnement. C'est plus un soutien qu'un sponsor, en fait. Voilà. Ils trouvent ça cool, ils s'y intéressent, ils trouvent ça bien que je sois sur Twitch. Donc leur façon de me le dire, c'est de m'avoir apporté un soutien, un accompagnement sur l'hebdo Étienne, mais il n'y a aucune intervention de leur part, aucune attente au niveau de l'audience, même si l'émission marche bien et j'en suis content. Et surtout, et ça, c'est évident pour un groupe comme France Télévisions, mais pas évident forcément pour tous les parrains et les sponsors, aucune intervention sur le choix des invités et des thèmes, ça c'est pour ma pomme, quoi. Donc GG France Télévisions qui me laisse une totale liberté, quoi. Tu crois qu'il y a vraiment des gens, des personnes qui sont jamais venues sur ce stream? Me dit Manu. Oui, oui, régulièrement, et c'est cool d'ailleurs. Voilà. Ok, c'est très bizarre. Il y a Mistouz qui me dit qu'il faudrait que j'achète un renforceur de doigts pour éviter les tendinites. Renforceur de doigts, ça existe vraiment? Renforceur. Au début, j'ai vu renforceur de doigts, je me suis dit, oula, on est sur un terrain glissant là. Renforceur de doigts, c'est-à-dire pourquoi t'as besoin de renforcer tes doigts, c'est super bizarre, tu vois. Et après, bon, j'ai vu gaming, ça va, ça existe, bordel. J'affiche quand même les lumières parce que. Les images parce que j'ai quand même très très peur. Hop, c'est ça. Ah oh oui, les trucs comme ça là. Ah oui, les tchit tchit tchit. D'accord. Ah, ne me dites pas que les. Quoi, les gamers, ils ont ça? Attendez, les grands champions de jeux vidéo, tout ça, ils ont ça en vrai? Il faut que je m'achète ça ou pas? Bon, c'est que ça va pas coûter très cher. Hein. Hé hey, personne n'a ça, me dit Mamadou Star. J'aurais été surpris. C'est une blague. Attends, j'étais prêt à passer commande. Merde, j'étais. Le mec, tellement. Il y a un Fauria qui se fend la gueule. J'étais tellement. Je suis tellement naïf. J'étais prêt à me commander un renforceur de doigts, quoi. J'adore. En vrai, ça sert. Les mecs qui font ça, là, on voit ça parfois, là. C'est pour quoi faire? Alors, si ça sert pas au gaming. Moi, vous avez tous vu dans le quotidien, on en croise les mecs qui font des trucs comme ça. C'est pour quoi faire? Il y a Taya qui doit faire de la muscu, peut-être, qui me dit c'est pour les avant-bras. Merci Inforea pour l'abonnement offert à Rundle. Merci à tous les deux. Pourquoi ils font ça? L'escalade pour le... Ah, pour l'escalade? Ah, les grimpeurs en fond? Ouh, la vache. Remake annonce que l'an prochain, je lance mon équipe e-sport. J'adore. C'est pour muscler les poignets. C'est pour le grip dans certains sports, d'où là l'escalade. Ok. Pour la guitare, ça peut aider. Ah ok. La guitare est pour l'escalade. Imagine, tu fais de la guitare et de l'escalade, t'es toujours en train de. Voilà. C'est bon ça. Les muscles dans les avant-bras, ça sert aussi pour que. Les petits poignets ouvrent les bocaux de cornichons. J'adore Sandrine. J'adore. Pourquoi tu te muscles comme ça les doigts avec ton truc? C'est pour ouvrir les bocaux en fait. C'est pour ouvrir les bocaux. J'ai des petits messages. Ok, il y a Solal qui va passer nous voir. Petit chouchou là pour venir choper un chocolat. Et puis il a oublié une peluche dans le studio de stream. Donc je pense qu'il va passer nous faire un petit coucou tout à l'heure. Ok, donc là je découvre un truc qui s'apparente quand même à la torture. C'est Geloco qui nous raconte que souvent en escalade, il s'entraîne à faire des tractions sur un doigt. Des tractions sur un doigt. Et il y a des barres avec des trous exprès pour ça, quoi. What? Ouais. Drôle. Coucou. Oh, c'est mignon. Salut, Jabzer. Bon courage. Le Spider-Man français, par exemple, il fait des tractions avec les petits doigts. Ok. Ok. Les lanceurs au baseball aussi. Ok. L'escalade à haut niveau, c'est 100% souffrance, me dit Tech Pike. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'en fais pas d'ailleurs. Ok. Quelqu'un lui raconte les réglettes. Oula. Vous m'en êtes sur un truc bizarre. Je suis sûr que vous m'en êtes sur un truc bizarre. Bon, les amis, profitons parce que, comme je vous le disais, demain on est quoi, vendredi, et du coup, je vais peut-être pas streamer demain matin. Je vais garder tout mon énergie, tout mon influx pour cette émission en espérant que ce soit une masterclass demain. Ça me plaît, la première, je l'espère, d'une longue série de découvertes de cet univers qui me fascine, qui est l'univers du jeu vidéo. C'est demain soir, c'est à 20h. Soyez nombreux et je serai super preneur de vos conseils pendant et après le stream. Peut-être qu'on fera un débrief ce week-end. Tiens, voilà, on fera un replay de ma propre émission. On fera un débrief, comme ça je prendrai note de toutes vos petites remarques sur l'éditorial, le conducteur, ce qu'il y a au niveau du contenu, la forme aussi bien sûr, son, image, etc. Quoi. Voilà. On fait ça. Attention, Squeezie stream également demain soir, dit Shikaka. Écoute, hein, le problème, c'est que le stream français est vraiment riche de plein de trucs géniaux. L'Hebdo Etienne, c'était le vendredi, par exemple. Et si tu commences à regarder, en fait, ce que font les autres, tu te rends compte que tous les soirs, il y a des masterclass et des trucs formidables. Un coup Rayou ici, un coup Jean là, ici Squeezie. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas de bonjour, quoi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Allez, on y va. Petit sommaire, les amis, ceux qui sont là pour la première fois, les autres, vous le savez, les habitués, eh bien, on commence par un petit sommaire, comme ça, ceux qui n'ont pas 3 heures à nous consacrer, eh bien, vous avez l'essentiel en 10 minutes. Let's go pour le sommaire. De quoi je vais vous parler ce matin? Je vais vous parler de ça. De ça. Pousse-toi, micro. Il y a un mec qui me dit, Sam, juste évite de streamer le jour du GP Explorer 2. Eh mais non, tu seras dans une F4 dans l'écurie mystère, bien sûr, c'est comme ça que naissent les rumeurs. J'ai une tête à participer au GP Explorer, j'adorerais en vrai. Mais non, bien sûr. Mais si un jour ils veulent m'inviter pour changer des pneus ou faire des trucs, je serais super content. Ça, c'est la grosse actu en France aujourd'hui. Cette proposition de loi du groupe Liot qui arrive à l'Assemblée, qui était super ambitieuse, qui était un peu la dernière cartouche, on va le dire, de ceux qui s'opposaient à la réforme des retraites, et qui était censé faire voter l'Assemblée sur eh bien, un retour en arrière. C'est-à-dire, si la proposition de loi du groupe Liot était votée aujourd'hui à l'Assemblée, eh bien, on aurait eu un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et pas 64 ans comme avec la réforme. C'était une annulation hein, peu au prou de la réforme des retraites. Sauf que, même si dans les faits, puisque ça allait passer au Sénat après, il n'y avait aucune chance que cette proposition de loi soit entre en vigueur après son vote et donc annule réellement la réforme. Ça aurait été un vrai coup politique dur pour le gouvernement, évidemment, une forme d'acte de défi super, super fort, quoi. Avec pour la première fois que l'Assemblée enfin puisse se prononcer sur la réforme, puisqu'il y a eu 49-3, les députés n'ont pas pu voter. Eh bien, pour la première fois, eh bien, c'est un vote négatif. Donc ça aurait été en termes d'image et de séquence politique extrêmement négative pour le gouvernement, qui l'a bien compris et qui a tout fait pour que cette proposition de loi ne soit pas votée. Et c'est ce qui va se passer. Voilà. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelques jours, l'article 1 de cette proposition de loi, l'article principal, celui qui nous fait revenir à 62 ans, eh bien, a été retiré du texte par la commission des lois, forçant les députés du groupe Liot à remettre cet article via un amendement. Ce n'est pas l'article 40 MMG7F à la commission des lois, l'article 40 c'est aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est vraiment compliqué. Forçant aujourd'hui à remettre cet article via un amendement proposé toujours par le groupe Liot, et c'est là que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, va sortir l'article 40 aujourd'hui. Elle a annoncé qu'elle le ferait, donc il y a quasiment zéro suspense, en disant, au nom de l'article 40, comme cet amendement va augmenter les charges du pays en supprimant une économie, hein, le passage de 62 à 64 ans, eh bien, c'est anticonstitutionnel. Donc, on n'accepte pas cet amendement. Il est rejeté. C'est peut-être la commission des affaires sociales, Marius, tu as raison. Il est rejeté et donc du coup l'Assemblée va peut-être voter sur ce texte, mais il est vidé de sa substance, quoi. Donc voilà. Alors je vous résume un petit peu, même si ça va être dit dans les articles qu'on va lire ici dans Libération et dans l'Humanité. Le gouvernement dit c'est légal, c'est constitutionnel, on se sert des outils à notre disposition dans la Constitution, il n'y a rien de fake là-dedans, c'est vrai. Hein, c'est dans les textes. Après, les opposants disent que c'est une certaine lecture des institutions et c'est surtout un abus, quelque part, un abus de pouvoir en empêchant systématiquement la représentation nationale, à savoir l'Assemblée, de se prononcer sur cette réforme, puisqu'il y a eu le 49-3, donc une adoption sans vote. Et puis, au moment où justement l'Assemblée allait pouvoir se prononcer là-dessus, eh bien, on l'empêche un petit peu par tous les moyens. Voilà. Amendement ou article de dernière minute, est-ce que c'est possible? Demande Kozo. Non, puisqu'à chaque fois, l'article 40 peut être invoqué pour éliminer tout amendement qui vise à augmenter la dépense. Voilà. Merci Madrilène pour le gentil message, et puis bon bouchon à toi, puisqu'on a des gens qui sont coincés dans les bouchons. Donc là je suis dans le sommaire, donc hop là, mon coca qui se renverse sur ma table de mixage. Quel couillon. C'est pas... Ça veut dire que je suis fatigué, ça, bougez pas. Hop là. Il n'y a rien. Il y a R, comme dit mon ami et toi. Il n'y a rien du tout. On a eu de la chance. Il y a eu du coca sur la table de mixage. Mais d'abord, c'est du coca light. Donc, il n'y a pas de sucre qui peut cristalliser en chauffant. Parce que ça, une boisson sucrée sur une table de mixage, moi, j'ai déjà vu en radio il y a quelques années, n'importe quelle boisson avec du sucre dedans, coca, champagne, n'importe quoi, en fait, quand, avec la chaleur, en fait, le sucre va niquer tout en quelques secondes. Donc ici, je me dis qu'avec du coca light... En fait, normalement, il n'y a pas de sucre qui devrait cristalliser, donc pas de problème. Et en plus, c'est tombé sur le bord de la table de mixage, à un endroit où il n'y a pas de, trou, de fente, pas trop en tout cas. Voilà. Donc, je pense que c'est OK. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas renversé un truc. Ça faisait très longtemps d'ailleurs. Je pense que c'est un petit signe de fatigue. Voilà. Voilà. J'arrive. Que de péripéties. Évidemment, ça, c'est encore un coup du gouvernement pour m'empêcher de commenter ce qui se passe à l'Assemblée. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un... Parce que je vous connais, hein, pourquoi j'ai un rouleau de sopalin d'essuie-tout... Il y a un article qui a pris cher quand même, par contre. À portée de main, c'est parce que j'ai une petite cuisine ici, notamment qui nous sert à faire la cuisine pour les invités du vendredi. Voilà. Donc, je dis juste ça parce que je vous connais. Ouf, heureusement que c'est du faux coca. T'inquiète, on sait. Ouais, je vous connais. Lewis, merci pour le 12e mois d'abonnement, ce qui va me permettre d'acheter un nouveau rouleau de sopalin. Ella, Ella, très joli pseudo, merci beaucoup pour le 13e mois d'abonnement. On enchaîne le sommaire après un ou deux messages dans le chat. Ouais, il y a des journaux qui ont pris cher. Les Échos notamment qui ont pris cher. Le Viking, bien joué, bien vu. Oui, le champagne, ouais. Oui, ils sont, je vous dis ça parce que c'est une anecdote de ouf. J'étais jeune journaliste, je travaillais à Radio France Internationale, il y a prescription, il y a très longtemps, je peux raconter cette anecdote que je n'ai jamais racontée, en vrai. C'était il y a très longtemps à RFI, et jeune journaliste, donc jeune journaliste, souvent ça travaille la nuit, et c'était une année où je passais le réveillon, de passage à la nouvelle année. À Radio France Internationale, Dave Mars écrit, donc c'était avant la guerre de 14, merci beaucoup, c'est adorable. Et donc, c'était une tranche la nuit sur Radio France Internationale. Vous savez, c'est une radio française qui émet dans le monde entier, quoi. Et on avait fait une belle émission où, en gros, on fêtait le nouvel an sans arrêt, en gros, toutes les demi-heures dans plein de pays à travers la planète, puisque RFI émet partout. Donc, on fêtait, je crois qu'on commence en Asie ou en Australie par là, à telle heure, une demi-heure plus tard, dans un autre pays, enfin avec les fuseaux horaires, vous avez compris l'idée, quoi. Et puis, genre vers minuit en France, pour notre passage à la nouvelle année, j'ai mon rédacteur en chef adorable, un mec super gentil, qui débarque en régie. Et là, vous commencez à voir arriver l'accident. Oui, pas toutes les demi-heures, toutes les heures, ouais. C'est logique. Le mec qui dit, oui, bah oui, ça marche pas. Et il débarque avec une bouteille de champagne. Qu'il avait peut-être déjà entamé un petit peu. Voilà. Et il trébuche. Et la bouteille de champagne ouverte, sinon c'est pas drôle, se renverse sur la table de mixage. Table de mixage, pas la petite table de mixage de 15 cm que j'ai là. Une table de mixage professionnelle de studio de radio, qui était, je crois, le studio principal de Radio France Internationale. Donc c'est le truc qui fait 10 mètres. Il y a un milliard de boutons. Enfin, c'est un cockpit d'Airbus par rapport à ça. C'est simple comme bonjour, quoi. C'est pas la taille qui compte. Clément Polito, ça dépend. Donc, une énorme table de mixage. Voilà. Et bam, la bouteille de champagne. Je le vois à travers la vitre, parce que moi, je suis dans le studio de l'autre côté, qui est séparé par une vitre, hein, traditionnellement. Et la bouteille se renverse sur la table de mixage. Bon, moi, je vois ça un peu pas, puis je m'inquiète pas tout de suite, parce que moi, je sais pas. À l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et en vrai, c'était super mignon parce que lui, en gros, m'apportait une coupe. Hein. Il venait en studio pour m'apporter une coupe. Mais entre-temps, il s'est cassé la gueule. Et puis, quelques secondes plus tard, j'entends des crrrr dans mon casque. Des petits grésillements. Je dis, ah tiens, on a un petit problème sur la, peut-être avec la liaison, avec le direct. Voilà. Et puis des crrrr de plus en plus fort. Putain. C'était la table de mixage qui était en train de rendre l'âme, quoi. Une dinguerie, quoi. Ou une soirée mousse, comme dit Tugols. Voilà. Et alors qu'on était en pleine émission spéciale, voilà, pour fêter le réveillon, la nouvelle année dans le monde entier, on perd l'antenne. On perd l'antenne, ça crash, quoi. Noir. Hop, voilà. Plus rien à l'antenne. Voilà. Donc certains trouvent ça super drôle. Moi, pas trop, parce que bon, c'était beaucoup de boulot et... Subitement, on perdait l'antenne. Bon, après, on a réussi à reprendre l'antenne, mais genre une demi-heure plus tard, dans un autre studio. Et le lendemain, alors il y a Dave Mars qui dit le gars a été viré. Non. Le lendemain, convocation par la direction de tous les gens qui étaient présents dans le studio et qui nous ont demandé ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Parce que je pense que la réparation de la dite table de mixage ou son remplacement, je sais pas, ça devait coûter deux bras, quoi. Deux bras, deux jambes, les oreilles et tout. Et donc, petite mini-enquête, quoi. Et le rédacteur en chef en question, adorable par ailleurs, je regarde un super bon souvenir, n'a pas été viré, mais il a été, ouais, puis il y a eu une petite sanction, quand même. Voilà. Tout ça pour vous raconter. Bon, tout ça aussi pour voir s'il y avait des crrrr dans le son, là. Après, j'ai l'impression que notre table de mixage n'est pas abîmée, donc on peut continuer. Merci Comaliste pour le Prime. Manifestement, tu as aimé la petite anecdote. Et merci The Voyageur pour les beats. Et Warriz pour le Prime. Voilà. Donc, cette histoire de la loi, de la proposition de loi Lyot, voilà. Elle arrive, je vous en parle. Et puis, je vous parlerai aussi de ça. C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant, c'est très bizarre. L'article totalement improbable. Allongement des jambes. Les hommes vont droit dans le fémur. D'abord, on va valider ce titre. Je viens de me rendre compte du jeu de mots parce que je l'ai lu très vite ce matin dans un état second aux alentours de 3h du mat. Allongement des jambes, les hommes vont droit dans le fémur. Qu'est-ce qui se passe ? Récemment, il y a un buzz qui a été provoqué par une photo sur Internet d'une femme, d'une mannequin allemande qui s'est rallongée, qui est plus grande de 14 cm parce qu'elle a fait une opération un peu particulière, on va dire, pour allonger ses jambes, ça existe. Il y avait une vieille opération qui avait été inventée par un russe un peu barbare et puis aujourd'hui il y a un truc qui est un peu plus moderne mais qui fait bien mal sa race. Sauf que l'article de Libération nous explique qu'en fait l'immense majorité des personnes qui vont voir les chirurgiens spécialistes de ça pour se faire allonger les jambes, King Julian DBZ dit mais pourquoi ? Pour être plus grand en fait, pour grandir. Eh bien l'immense majorité des gens qui vont voir ces spécialistes sont des hommes. Voilà, donc je vous lirai ça, c'est assez étonnant. Et on se penche notamment, et c'est ça qui est intéressant dans l'article, sur les motivations. Mais pourquoi ? Pourquoi vouloir devenir plus grand ? Voilà. Clément Poletto dit qu'il mange de la soupe, c'est faux. Toute mon enfance, mes parents m'ont fait manger de la soupe. Sans crème fraîche, genre à peine de sel, pas de beurre et tout, genre avec plein de légumes, genre plein de fibres, genre avec des poireaux et tout, quoi. Verte un peu, quoi. Franchement, bon.
Voilà, bon, voilà.
C'est pas... Ouais, bon, je... voilà. Plein d'amour pour mes parents, mais ouais, c'était... Ok, c'était pas... Bon, un peu dégueu. Et voilà la taille, quoi. Je fais 1m67. Donc, je peux te dire que si la soupe faisait grandir, avec les soupières, avec les tonneaux, avec les baignoires de soupe vertes que je me suis enfilé, ben, je peux te dire que ça se saurait, quoi. Donc, la soupe, vous oubliez. Et l'opération, on va se pencher là-dessus. En vrai, c'est assez passionnant cette histoire. Voilà. Tu vois, j'ai un air qui a bu beaucoup de soupe aussi, à 1m69. Donc voilà, c'est de la connerie. Donc l'humanité se penche aussi sur l'histoire de la proposition de loi Lyot. Je vous lirai pas l'article parce que c'est exactement la même chose que dans Libération. Hein, la même colère en fait, en disant mais c'est quoi cette pratique des institutions de la 5ème République ? Ça va pas du tout, quoi. J'aimerais bien prendre 5 cm, me dit Cyriel. Bon, en fait, il y a une opération là-dessus. Voilà. Et ça, c'est très douloureux pendant longtemps. Et ça coûte, j'allais dire un bras, ça coûte une jambe. excellent, quelle vanne incroyable, quel humour. Mais c'est possible, ça marche très très bien manifestement, c'est ce que semble dire l'article de Libération. Le Figaro sur en vrai j'ai hésité à vous le lire, ça je me suis dit, putain, encore un truc bien anxiogène là. Mais bon, en même temps, c'est une réalité. En fait, dans ma tête, ça a fait ça. J'ai dit, oh là là, le trafic de drogue, la violence, les règlements de compte, l'insécurité dans certains quartiers et tout. Oh là là, qu'est-ce que je veux casser le moral des viewers ce matin. Et en même temps, je me dis, ben ouais, mais c'est ça existe. C'est vrai. Et il semblerait que dans certaines villes, certains quartiers, ça devienne de plus en plus délétère. Voilà. Et que le phénomène semble non pas diminuer, mais s'étendre. Quoi. Donc à un moment, je me suis dit, bon, Samuel, tant pis, tu mets ta bonne humeur de côté, et puis tant pis, tu lis ce truc, parce que c'est quand même un phénomène un peu inquiétant. Quoi. Voilà. Voilà. Notamment ce qui s'est passé à Valence avec l'école, Cyril, exactement. Ouais. Il y a Samuel Vimière qui dit « Merci d'avoir parlé de la déclaration d'impôt en début d'émission, j'avais oublié, je viens de finir de remplir la mienne. » Donc ça veut dire qu'en 10 minutes, tu as rempli ta déclaration d'impôt, de deux choses l'une. Ou elle était totalement pré-remplie, tu n'as rien ajouté, tu as validé vite fait, ou tu nous as torché ça comme un cochon et c'est gavé d'erreurs. Voilà. Et là, 10 minutes pour une déclaration d'impôt, moi j'y passe à peu près 2 mois. Hein. C'est pas vrai. Le Parisien, qu'est-ce qu'il y a en une du Parisien? Oh, une dinguerie. Une dinguerie, un truc de fou, les extraterrestres. Depuis toujours, je sais qu'ils sont là, qu'ils sont pas loin, qu'ils nous regardent, qu'ils sont venus. Oui, je le savais. Oui, statistiquement, la vie quelque part dans l'univers est possible, comme disent les scientifiques qui disent, quand récemment il y a des scientifiques qui ont écrit là-dessus, c'est passionnant, vu l'immensité du nombre de galaxies, vu l'immensité du nombre de planètes dans les galaxies, vu l'immensité, etc. Statistiquement, oui, c'est sûr, il y a de la vie quelque part. Quelle forme de vie, ça on ne sait pas, bien sûr. Mais là, c'est autre chose. Il y a un Américain, il y a un militaire américain, un gradé américain, un mec qui a bossé dans le renseignement, un officier, c'est ce monsieur-là, toutes ces décorations, ces médailles-là, qui dit le gouvernement américain vous cache des trucs. Il y a des trucs que savent le gouvernement américain, le gouvernement canadien, le gouvernement britannique notamment, puisqu'ils bossent ensemble là-dessus. L'humanité, c'est-à-dire certains pays, détiennent un appareil exotique, c'est le terme consacré, voilà, quelque part, donc, qui serait un vaisseau spatial, c'est très précis, qui se serait crashé en Italie dans les années 30, 1930, voilà, et il est quelque part, et il subit plein de tests depuis longtemps pour que eh bien, les scientifiques qui se penchent dessus essaient de comprendre d'où vient cette technologie extraterrestre. Voilà. Bon, ce ne serait pas la une du Parisien, je ne vous en aurais peut-être pas parlé, mais c'est quand même assez étonnant. Quoi. Pourquoi les ovnis vont toujours en Amérique, demande Stassi. Celui-ci, il est là, il était en Italie. Quoi. Donc lui, il parle, et il dit c'est très sérieux, je vous lirai ça, puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Hein. Je vous rappelle que l'objectif, moi, j'avais deux objectifs dans ma carrière de journaliste. Un, c'était d'interroger Jennifer Lopez, de faire un entretien avec Jennifer Lopez. Et deux, d'être le premier à interviewer un extraterrestre sur, alors, ou à la télévision ou maintenant sur ma chaîne Twitch. V'là le petit pic d'audience. V'là le petit pic d'audience si demain je reçois un extraterrestre sur ma chaîne Twitch. Ouais, Jennifer Lopez, oui, c'est. Non, Jennifer Lopez, j'ai oublié parce que comme j'ai. Bon, c'est un projet que j'ai abandonné, Jennifer Lopez. Comme j'ai une. J'ai un détail, une petite. Une injonction judiciaire, j'ai pas le droit de l'approcher à moins de 100 mètres, un malentendu une fois. Bon, voilà. Donc, du coup, extraterrestre, par contre, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de décision de justice, donc normalement, je peux quoi. Très, très fier de ma vanne. Oui, puis il y a Hélène aussi un petit peu qui a mis son veto. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je reviens un petit peu sérieux, parce qu'il y a des inquiétudes sur la santé du pape en ce moment, qui vient de subir une lourde opération, anesthésie générale. C'est le pape, il a 86 ans, il est de santé fragile, donc évidemment, il y a beaucoup de questions quant à sa capacité à tenir ses fonctions. Pourrait-il démissionner, abandonner sa charge de souverain pontife ou peut-il... et hélas pour lui, nous quitter. Un petit article du Parisien là-dessus. Il y a Indalcio qui dit ça va encore changer de pape MDR. Je ne sais pas ce qui te fait rire là-dedans. Mais bon. En fait, c'est le MDR qui me surprend. Ouais. Il y a Kimarie Rousseau qui dit est-ce que tu seras cette année au pèlerinage de Chartres? Non. Non. Je n'ai pas prévu, je ne sais pas. Ouais. Lui, c'est un peu un extraterrestre pour le coup, mais du football. C'est Messi. Alors, il n'a pas été peut-être au top du top du top du top des attentes au PSG, quoique. Enfin, bref, c'est un débat. En tout cas, il se barre de Paris. Je crois qu'il y a eu des mots assez. Pour dire un peu finalement, il n'a pas trop aimé ces deux années à Paris. Bon, je pense que du côté des supporters du PSG, ça va un peu gueuler. Il s'en va, et il s'en va. Alors, il y avait beaucoup de suspense. Lionel Messi, est-ce qu'il partait au Barça? Est-ce qu'il retournait au Barça? Est-ce qu'il allait en Arabie Saoudite? Moyennant, a-t-on dit ces dernières heures, 1 milliard. 1 milliard de dollars sur 2 ans. C'est la dernière somme qui lui a été proposée pour aller en Arabie Saoudite. 1 milliard de dollars sur 2 ans. C'est vrai. Voilà. C'est le dernier chèque qui lui a été proposé. Et il a dit non. Et il va à l'Inter. Mais pas à l'Inter de Milan, il va à l'Inter Miami. Voilà. À Miami. Pourquoi Miami? Bon, on verra ça rapidement. Mais moi, du coup, dans l'équipe, j'ai vu un autre sujet que je trouve intéressant. Justement sur l'Arabie Saoudite, sur l'incroyable offensive de l'Arabie Saoudite dans le domaine du sport, voilà, et notamment il y a Benzema qui y va, mais le fait de vouloir faire venir Messi participer de ça, voilà, bon, j'ai un petit peu de sous, hein, c'est le soft power notamment, et là il y a une double page dans l'équipe sur les ambitions de l'Arabie Saoudite en matière de sport, genre organiser bientôt une Coupe du Monde de football, hein. Vous avez aimé le Qatar? C'est reparti en Arabie Saoudite. Et voir des Jeux Olympiques. Voilà. Donc ça, c'est passionnant. C'est dans l'équipe ce matin. Donc on lira ça aussi. Pas mal, hein, ce matin, l'actu. Il y a un petit peu de tout. Un peu de politique, un petit peu de drogue, un petit peu d'extraterrestre, un petit peu de pape, un petit peu d'Arabie Saoudite et un petit peu de proposition de loi. Hop, 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 merci. Oh là là. Merci pour cette pluie de sub. Ding, ding, ding. Putain, je suis tellement ringard. Mais en vrai, je devrais peut-être faire ça, en fait, quand il y a plein de subs qui tombent d'un coup, comme Mumu, le gars électrique, qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. En fait, je devrais mettre une douche, tu vois, un truc pour faire genre la douche, tu vois. Ça me rappelle une scène de Flashdance, vieux film sur la vie d'une jeune danseuse, voilà. Et à un moment, elle danse dans un club, voilà. Et à un moment, il y a une danseuse, c'est peut-être elle d'ailleurs, qui à un moment est sur une chaise, voilà, et puis à un moment elle tire le truc comme ça, puis il y a l'eau qui tombe sur elle. C'est un vieux souvenir de l'adolescence, là. Voilà, ouais. Bref. Et donc je pourrais faire ça, quoi. Voilà. Ouais. Ah, il y a Magic 35 qui a une autre rêve qui dit comme Jackie du Club Dorothée. Il y a Cote qui dit moi ça me rappelle les jeux du Club Dorothée. Ok. J'ai pas la rêve, mais d'accord. Oh, Linacos qui dit revenons aux journaux. Ah, ça va, ça y est, on parle de douche, on parle de un petit peu de le petit plaisir du quotidien là. Et ça y est, tout de suite, c'est allez, revenons aux journaux. Non. Voilà. Ah, ça pourrait être une idée, qu'est-ce qu'on pensait quoi? Merci beaucoup, en tout cas, Mumu le Gaelic pour les 10 abonnements offerts à la commu. J'aurai la douche, je la mettrai. Et Gérard Géronimi, merci pour le 10e mois d'abonnement. Ah, j'ai pas vu. Solber, merci aussi beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Et The Voyageur à l'instant pour l'abonnement que tu offres à Alien, bien sûr. Bien joué. Oh, merci, Don Théoc. Vous êtes trop cool. Vous êtes trop gentil. Ambiance bizarre. Non, tout va bien, on est bien, on est bien. Il y a une pub de lessive qui reprend la rêve de la douche sur la chaise. Alors là, mamiche, moi, je m'achetais cette lessive. T'étais trop vieux, t'as pas connu le Club Dorothée ? Si, j'ai bien connu. Rinsevent qui se souvient très bien de Flashdance. Écrit, tu as plein de qualités, Sam, mais tu n'es pas aussi jolie qu'elle à l'époque. Tu m'as pas vu encore sur ma chaise avec la flotte comme ça. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. J'avais fait une petite vidéo, je vous la montrerai un jour, ce serait une petite surprise. Ouais. Merci Petit Fan pour l'abonnement offert à la commu. Je crois que tu as repris un sub il n'y a pas longtemps, toi en plus. Et Cheb69, merci pour ce 17e mois d'abonnement. Allez, on lit. Mais d'abord, 30 secondes, je vais remplir ce verre que je viens de vider sur ma table de mixage. Bougez pas.
On n'est pas parti.
On est là. Merci TechPack pour l'abonnement. On est là. Oh. On est là et on va parler d'abord de la proposition de loi aujourd'hui à l'Assemblée. Ah, ça fait du bien. Prêt ? Go ! Allez. La colère de l'humanité ce matin sur ce qui va se passer à l'Assemblée. Ah, j'ai oublié les échos. Ah oui, vous avez les échos que j'ai trempés là. Ouais. Ouais, j'ai les échos sur. Bon, je vous raconte un article sur comment demain on va payer avec la main. Aujourd'hui, on paye avec le visage, on paye avec le code. Demain, on va payer avec la main. Voilà, parle à ma main, ça va payer. Voilà. Donc, il y a Anton Duberville qui a écrit ça. Je sens que je vais encore m'énerver avec le sujet qui arrive. Oui, ça peut énerver un petit peu. Hein. Voilà. En tout cas, ça énerve gravement l'humanité quand la minorité fait la loi. Le titre claque sur la consigne de l'exécutif. L'humanité le résume beaucoup plus clairement que moi tout à l'heure. La présidence de l'Assemblée a décidé d'empêcher donc aujourd'hui l'examen de propositions d'abrogation de la réforme des retraites. Un fait sans précédent, écrit l'UMA. Je pourrais vous lire l'Humanité qui est un excellent journal. Je vais vous lire Libération qui est sur le même sujet parce que l'article est vraiment bien foutu. Libé, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est l'accablée nationale, réforme des retraites, et je lis, ultime coup de massue sur le processus parlementaire, Macron et sa majorité privent les députés d'un vote sur le texte du groupe Liot visant à ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, je crois que Libération le rappelle très très bien. Édito de Paul Quignot, quelques mots et après je vous lis l'article. Le gouvernement rappelle que tous les outils lui ayant permis de court-circuiter les débats sont légaux. C'est vrai qu'aucun des procédés, des articles de la Constitution utilisés par le gouvernement dans ce combat sur la réforme des retraites n'est inconstitutionnel, n'est illégal. Ils sont dans la légalité, ils sont dans le droit. Mais il y a le droit et puis quelque part il y a aussi l'esprit des lois. Et puis il y a peut-être la morale aussi, même si morale et politique... Voilà. Et les opposants au gouvernement disent que vraiment l'exécutif a quand même hyper abusé, voilà, dans l'utilisation de toutes les ficelles légales et constitutionnelles pour empêcher le débat finalement sur cette réforme des retraites. Souvenez-vous, il y a eu 49-3, hein, il n'y a pas eu de vote sur la réforme des retraites. Il y a eu le 47-1 auparavant qui avait été utilisé. Et puis maintenant, c'est l'article 40 dont on va parler qui va empêcher à nouveau un vote sur la réforme des retraites. Je lis Paul Quignot plutôt, c'est Paul aujourd'hui qui signe l'édito. Si les arguments de droit avancés par la majorité sont justes, ils ne masquent pas la vraie défaite politique sur le fond d'Emmanuel Macron et sa majorité. Car l'utilisation de toute cette cavalerie parlementaire résulte d'une seule chose, l'incapacité du pouvoir à convaincre de la nécessité de sa réforme des retraites et de son caractère juste. C'est pas faux. Il n'a su convaincre ni les Français ni les parlementaires. Oui, alors là, Libé met le doigt là où ça fait mal. Les Français pas convaincus par cette réforme des retraites, c'est ce que disent les sondages depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Une immense majorité des Français, encore plus si on ne prend que les actifs, ne voulait pas de cette réforme. Encore aujourd'hui, même si elle a été promulguée, si elle est passée, si les premiers décrets d'application sont en train d'être pris, les Français n'en voulaient pas dans leur majorité, les parlementaires n'en voulaient pas à l'Assemblée. Le texte a été proposé en débat. C'était un souhait de la Première ministre Elisabeth Borne qui, contrairement au président Macron qui, a priori, voulait utiliser le 49-3 très très vite, dès le début, pour aller très très vite sur cette réforme, s'est laissé convaincre par Elisabeth Borne qu'il fallait aller à l'Assemblée pour que ce texte ait un vote, ait une légitimité politique pour lui donner plus de force. Donc le président Macron a accepté, en espérant qu'un accord électoral soit trouvé, notamment avec les élus LR de droite, pour faire passer ce texte. Cet accord n'a pas été trouvé. Au passage, d'ailleurs, les responsables de la majorité, l'exécutif, sont assez en colère aujourd'hui contre la droite qui est à l'Assemblée. Et il y a eu 49-3, vous le savez, c'est-à-dire pas de vote, puisque le gouvernement avait très, 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 très peur qu'il n'y ait pas de majorité sur cette réforme à l'Assemblée. Donc, les Français pas convaincus, qui n'ont pas pu s'exprimer, et l'Assemblée, les députés, qui n'ont pas pu s'exprimer non plus sur un texte majeur. Quand on demande aux gens de travailler X mois ou X années de plus pour avoir le droit de partir à la retraite, on peut parler d'un texte majeur. C'est pas un petit texte, c'est quelque chose qui change, qui va changer le quotidien de bien des Français, de bien des Françaises. Lisons maintenant l'article. Enjeu, donc, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, ça va bien vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Enjeu, la proposition de loi du groupe Liot. Hein. Alors Liot, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Pour faire simple, c'est un groupe à l'Assemblée qui regroupe des députés. Alors être en groupe, c'est intéressant parce que ça donne des prérogatives qui peuvent être intéressantes. Se mettre en groupe, se rassembler dans un groupe, passer un certain nombre de députés, vous avez des prérogatives comme par exemple pouvoir, dans le cadre d'une niche parlementaire, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pouvoir proposer à l'Assemblée de débattre, de voter sur des textes qui sont issus de vous. Quoi. Donc c'est intéressant de se mettre en groupe. Et là, on peut dire que c'est un groupe, Liot, un peu fait de briques et de brocs, avec des gens assez différents qui viennent du centre, qui viennent de la gauche, qui ne veut pas aller avec la NUP, notamment. Il y a des élus d'outre-mer aussi, d'où le haut, hein, c'est pour Outre-mer. Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et donc, c'est ce groupe qui a proposé, plutôt une bonne idée, c'était assez malin, une proposition de loi à l'Assemblée visant à ramener de 64, la réforme, à 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Donc, en gros, annuler la réforme des retraites. Quoi. Mais cette mesure ne sera pas soumise aux députés, hein, puisque la présidente Renaissance de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a annoncé mercredi qu'elle allait déclarer irrecevable cette loi, en tout cas l'amendement qui faisait revenir le retour à 62 ans, pour être tout à fait précis, dans cette proposition de loi, irrecevable au nom de l'article 40 de la Constitution. Qu'est-ce que c'est cet article 40 de la Constitution dont on parle tant ? Eh bien, c'est un article qui interdit à des textes d'initiative parlementaire, ça c'est important, d'initiative parlementaire, d'alourdir les charges publiques. Voilà. En l'espèce, on revient sur les économies générées par la réforme et donc on alourdit les finances publiques. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais est-ce que tout le monde peut utiliser cet article 40 ? Tout le monde, sous-entendu, est-ce que l'opposition, par exemple, peut utiliser cet article 40 pour dire « Oh là 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 là, cette loi du gouvernement là qui aggrave les déficits, hein, par exemple, je sais pas, une loi de réduction des impôts, eh bien, ça ne marche pas. On n'a pas le droit de le faire, ça, hein, article 40. » Eh bien non, regardez, c'est très précis, là. L'article 40 de la Constitution interdit à des textes d'initiative parlementaire d'alourdir les charges publiques. Voilà. Donc c'est une charge qui pèse sur l'Assemblée ou sur le Sénat, mais pas sur le gouvernement. C'est intéressant, hein, cette distinction est très importante. Le rendez-vous, du coup, là, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, a des airs de quoi, hein, bah, d'épilogue, de fin de cette bataille de la réforme des retraites. À un moment, on peut se raconter ce qu'on veut. Il y a eu 14 journées de mobilisation, il y a eu un débat tronqué à l'Assemblée, il y a eu un 49-3, il y a eu une promulgation de la loi très rapidement par le président Macron, les décrets d'application sont en train d'être pris. Bon, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Les responsables syndicaux le reconnaissent très clairement du côté de la CFDT, à demi-mot du côté de la CGT, mais c'est fini. Donc ça ressemble quand même à un épilogue. Pour ce combat-là, en tout cas, il y en aura d'autres qui seront menés dans les syndicats dans les prochains mois. même en faisant la part des postures, avec l'opposition, dès qu'il se passe un truc à l'Assemblée, c'est la crise du régime, se moque un dirigeant de la communauté, même si on fait la part des postures de l'opposition, les commentaires expriment un trouble partagé aujourd'hui par l'opposition, par les syndicats, par les intellectuels, par un certain nombre d'observateurs, par des Français aussi, sur une dérive de la pratique des institutions de la Ve République. Dans un sondage Via Voice pour Libération qui a été publié mi-avril, 76% des personnes interrogées écoutées jugeaient la démocratie française en mauvaise santé. Qu'est-ce qu'il a, Tintin ? Il est très bien. Une moitié d'entre eux incriminant une pratique du pouvoir trop autoritaire et des institutions qui dysfonctionnent. Voilà. Je vais à la fin de l'article. Et je remercie Dominique Albertini, Victor Boileau et Jean-Baptiste Daoulas et leur équipe pour cet article qui est très très bien fait, qui est très clair. Si vous êtes un peu perdu sur ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, ben, achetez Libé, en vrai c'est super bien fait. En privé, une figure de la majorité s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe ? Les Français nous en veulent énormément, je le vois dans le chat. Même parmi les gens favorables à la réforme, mais opposés à l'article 49.3, lentement, mais sûrement, on continue à être les co-déglingueurs du système. Le président est de plus en plus 5e République dans ce cas de plus caricatural, donc tu vois, avec un pouvoir exécutif super, super fort et pas trop à l'écoute, on va dire, des corps intermédiaires et de l'opposition. Et les Français ont de moins en moins envie de ce fonctionnement-là, de cette pratique-là, des institutions de la 5e. Pourquoi ? C'est intéressant, je sais pas si vous êtes un passionné de droit constitutionnel comme moi, mais une constitution, c'est une règle du jeu. C'est une règle du jeu. Mais dans la pratique, dans l'interprétation de ces règles du jeu, en fait, il y a une marge, quoi, là. Et on peut, la 5e République, c'est pas un truc monolithique, homogène. C'est-à-dire que selon les présidents et des époques, la pratique des cinquièmes, de la cinquième a pu différer quelque peu, quoi. Il y a des possibilités, des pouvoirs laissés à l'exécutif très très fort par la cinquième, ainsi l'avait voulu le constituant général de Gaulle, mais qui ne sont pas forcément systématiquement utilisés. Je parle par exemple du 49.3 ou de l'article 40 ici. Bon, là, le reproche qui est fait ici au président Macron et à son camp, c'est d'utiliser effectivement toutes les ficelles de la cinquième pour donner un visage, une pratique, une réalité extrêmement, autoritaire. Voilà. En tout cas, très pro-exécutif de la 5e. Je vous lis un petit peu, et puis après, on parle de l'allongement des jambes. Rien à voir. Qu'est-ce que vous en parlez ? Je vous laisse la une de... Qu'est-ce que vous en pensez, pardon ? Je vous laisse la une de Libé. Merci aux voyageurs pour l'abonnement offert à Sopalin Cotonneux. J'adore. Merci beaucoup. Alors, vivement la sixième peut-être. Effectivement, on pourrait imaginer une nouvelle règle du jeu, une nouvelle constitution, avec de nouvelles règles qui pourraient donner plus de pouvoir au Parlement, ou avec une reconnaissance du vote blanc, ou une opinion des électeurs plus souvent consultée via la voie du référendum, par exemple. On peut proposer plein de choses. Alors après, des bonnes idées sur le papier, il faut après vérifier dans la pratique, si elle se révèle effectivement des bonnes idées. Peut-être qu'un jour, il y aura effectivement une 6e République ou une 5e République bis. Mais on n'est pas là parce que, je vais vous donner mon sentiment là-dessus, je suis un peu... Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait toiletter les institutions. Voilà, ce régime qui a plutôt bien fonctionné depuis 1958, avec la réforme de 1962 et l'élection du président au suffrage universel direct, a plutôt bien fonctionné, en montrant plusieurs visages, d'ailleurs, selon la pratique. Mais je pense que ce régime a vécu et qu'il faut sans doute le toiletter à minima ou le changer. Sauf que, pas tous, mais quasiment tous les candidats à la présidentielle de ces dernières élections, dans leur programme, il y a cette promesse de réformer, de toiletter, de moderniser les institutions, et ben, il ne se passe pas grand-chose en général, quoi. Voilà. Voilà. Alors, Cyril demande, mais quand tu dis 5e République bis, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire, pas une révolution, pas on met tout à plat et on refait un régime politique complètement nouveau, mais plus un toilettage, une modification des aspects, de certains aspects les moins modernes, les plus polémiques de la 5e aujourd'hui, en restant dans le cadre de la 5e, en ne créant pas une nouvelle assemblée constituante qui définirait de nouvelles règles du jeu, mais en toilettant, en modifiant des choses aux marges, quoi. Je vous lis. Il y a à minuit pile qui est en colère, qui dit mais j'en pense rien moi. Vivement qu'on change les règles du jeu. Oui, alors moi aussi je pense qu'il faut les changer, mais là où on va tous être pas d'accord, et je pense tous les Français pas d'accord, c'est quelles nouvelles règles du jeu? C'est là où ça devient compliqué. C'est un sujet qui me passionne, mais en vrai, je n'ai pas de certitude là-dessus. Puis après, tu dis, et qu'on arrête de laisser des sujets vitaux à des gens incompétents. Les gens incompétents dont vous parlez, c'est les gens que vous, pas vous directement, mais que vous élisez, quoi. On est, quoi que certaines personnes très en colère peuvent dire, dans la société française et dans ce chat en particulier, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent voter librement pour qui ils veulent, où ils peuvent exprimer leur colère en manifestant, même si parfois ça se passe pas très très bien. Et il y a une vraie question depuis quelque temps, vous le savez, de la gestion des manifestations dans l'espace public et de la pratique policière là qui pose question. Mais quand parfois sous l'effet de la colère, vous voyez la France est comme la Russie ou comme la Corée du Nord ou Dieu sait quoi encore, c'est un peu manquer de sens du détail et vouloir absolument être dans un truc un peu binaire, noir et blanc. Évidemment que c'est faux. Si vous pensez vraiment que le régime russe de M. Poutine est un régime où on a plus de liberté qu'en France, moi je vous invite à y aller et à vérifier par vous-même. Par exemple, en condamner la guerre en Ukraine sur la place rouge. Donc évidemment que non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de choses à améliorer dans notre système, mais en tout cas vous pouvez voter. Vous le faites pas, mais à un moment, dire nous en avons marre que des gens incompétents se chargent de ces dossiers essentiels, les gens incompétents, c'est vous qui les élisez, quoi. Voilà. Donc il faut se déplacer en masse aux élections pour tenter de trouver les meilleurs ou les moins mauvais de nos représentants pour voter les textes d'inspiration les plus proches de vos idées, de vos valeurs, de vos ambitions pour ce pays, pour notre société. Encore faut-il voter, et quand on voit les taux de participation aux élections en France qui vont diminuant à chaque scrutin, on constate effectivement que de plus en plus de citoyens se désintéressent du débat politique, du vote, voilà. Et finalement, et c'est ça qui est dommage, laissent les autres voter à leur place. Parce que pendant que certains se détendent des urnes, d'autres continuent à aller voter, et en fait c'est eux qui décident. Voilà. Et on sait par exemple que les électeurs les plus âgés, seniors, ont un taux de participation beaucoup plus important que les jeunes par exemple. Ça a toujours été comme ça, hein, mais ça allait peut-être encore un peu plus. Et du coup, c'est vous laissez à ces électeurs-là les mains du scrutin. Voilà, pardon, c'est un vieux rappel au fait que je pense que même si le spectacle de la politique n'est pas toujours très enthousiasmant, je pense qu'il faut malgré tout se faire violence et s'y intéresser et voter. Ce n'est jamais un grand moment d'enthousiasme, mais je pense que c'est une responsabilité. Je vous ennuie avec ça, j'arrête. C'est un truc dont je vous parle assez souvent. Vous êtes très nombreux à me parler d'une dinguerie qui vient de se passer à Annecy. Depuis tout à l'heure, je surveille ça dans le chat. Je pense qu'il y a un tragique fait divers qui vient de se dérouler à Annecy. Je vais voir. Oh ! Qu'est-ce que je suis maladroit ? J'ai ma souris League of Legends qui vient de se casser la gueule. Bon là, je pense qu'on va encore prendre un bon coup d'anxiogène. Oui, oui, aïe, aïe. Sur la tête, au nom de Dieu, merde. Ok, bon, c'est un truc dramatique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Ok, j'ai un article de Sud-Ouest ici, le quotidien régional Sud-Ouest sur sudouest.fr. Une attaque au couteau à Annecy fait plusieurs blessés, dont au moins 6 enfants. Un individu a agressé plusieurs personnes, dont des enfants, dans un square ce matin à Annecy. 6 personnes, plusieurs personnes, dont au moins 6 enfants blessés. Attaque au couteau. Des enfants âgés d'environ 3 ans. 3 des victimes ont un pronostic vital engagé. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. On en saura plus dans les prochaines heures. Est-ce que cette personne a été interpellée? Attendez. Ça vient de se passer, hein. C'est passé ce matin. 4 enfants blessés gravement, 2 en urgence absolue. L'homme a été interpellé par les policiers, a priori. Ok. En tout cas, un suspect a été interpellé. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est un fait divers. C'est un fait divers tragique. Si j'en sais un peu plus d'ici la fin de ce stream, j'y reviendrai, bien sûr. Bien sûr. Merci à tous ceux qui m'ont signalé dans le chat. Interpellé, ça veut dire arrêter. Ouais, c'est ça. Qui est l'agresseur? Merlin Mauvero, nous n'avons pas cette information pour l'instant, mais c'est une information évidemment qu'on va essayer d'obtenir. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent là et qui sont peut-être dans la région. Quoi. Défécateur officiel est avec nous. Il nous dit que effectivement, le préfet de Savoie a confirmé en annonçant qu'une intervention était en cours au Jardin de l'Europe, pour ceux qui y connaissent, à Annecy. Je vais aller voir dans une autre source là, parce qu'on me signale peut-être un article peut-être éventuellement plus complet. Alors moi, sur une info qui vient de se passer, je suis prudent. Pourquoi? Les plus grosses erreurs d'informations émises par les médias sont souvent commises dans, au moment où ça vient de se passer. Pourquoi? Parce que les confrères essayent d'aller vite. Quand on dit aller vite, ça veut dire quoi? Aller plus vite que la concurrence, donner l'impression aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux viewers, qu'on est plus rapide que les autres, qu'on a plus de moyens, qu'on est plus... voilà. Et en fait, surtout ce qu'on risque de faire quand on essaie d'aller vite, trop vite, de ne pas vérifier les informations, de ne pas passer les coups de fil auprès des gens qui peuvent être bien informés, etc. Qu'est-ce qu'on risque de faire surtout, plutôt que d'être rapide? C'est de dire n'importe quoi. Je vous donne un exemple très très concret, mais je ne vais pas citer la concurrence ce matin parce que ce n'est pas une très bonne publicité et je ne veux pas leur taper dessus. Ce matin... Donc il y a une alerte enlèvement en cours d'une petite fille de 8 ans, alerte enlèvement officielle. Nous, en tant que service public de l'audiovisuel, c'est un truc dans nos missions, il nous est demandé, et on y participe volontiers, de donner la publicité maximale à cette alerte enlèvement. On sait qu'il y a eu mort d'une femme qui serait la compagne du monsieur en fuite avec petite fille. Mais qui ne serait pas la mère de l'enfant. Voilà, donc on est sur cette histoire depuis ce matin sur France Info, on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Et à un moment, on a eu chez nos concurrents quelqu'un qui a affirmé que c'était la mère de l'enfant. Voilà. Et nous, on a préféré ne pas donner cette information et on a attendu et a préféré, a priori, on va les vérifier d'ailleurs, il s'est avéré qu'effectivement, ça n'était pas la mère de l'enfant, que c'était la compagne du papa. Tenez, on va aller voir quelles sont les dernières informations là-dessus. Tout ça pour vous dire que moi, je le vis quasiment au quotidien en tant que journaliste. Quand on veut aller trop vite en matière d'infos, on prend des risques quant à la qualité de l'information. Après, moi, je connais des chaînes qui, ça ne dérange pas plus que ça, qui sont capables de vous donner à 7h le matin une info, à 7h30 une autre qui n'a plus rien à voir ou qui est très différente, et 8h encore une autre histoire, sans à aucun moment s'excuser en disant « Excusez-nous, tout à l'heure, on vous a donné cette information, elle n'est pas fausse. Voilà. » Une info chasse l'autre, on pense que le téléspectateur se rend compte de rien, je pense qu'il ne voit pas forcément toujours. Et donc ça, moi, cette conception du métier, c'est pas possible, quoi. On en est où? Allons trouver une bonne source. Ouest France a écrit un papier il y a 9 minutes. Je pense que ça peut être pas mal. Où on en est de cet enlèvement et alerte enlèvement? Voilà. Donc là, je montre les visages des personnes qui sont impliquées dans cette affaire sans problème, puisque là, c'est une demande des autorités de participer à la sécurité de cette petite fille en essayant de retrouver le monsieur qui l'a enlevé, en l'occurrence son père, voilà, dont je vous montre ses visages. Ici à gauche, vous avez Malek Younes, la petite fille de 8 ans, qui aurait été enlevée par son père. De mémoire, il circulerait, si c'est pas débarrassé du véhicule, dans une Twingo verte. Et les infos données par les autorités font aussi état de tatouages au poignet et dans la nuque, si mes souvenirs sont bons. Où on en est, donc, Voilà, il s'agit bien de la belle-mère et de la compagne de l'enfant qui, elle, a été retrouvée morte à son domicile. Moi, ce matin, j'ai vu des confrères sur une autre chaîne qui parlaient de la mère de l'enfant. C'était une erreur. Ils sont allés un peu trop vite. Elle aurait conditionnel déposé cette femme de plainte déjà en 2021 pour violence conjugale. Ça, c'est une info que j'ai entendue ce matin également. Et elle a été retrouvée morte. Voilà. Donc manifestement, l'enfant n'a pas été retrouvé. On sait, vous savez, ces alertes enlèvement, c'est d'inspiration, je crois que c'est né aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus précisément. Et on sait, donc c'est arrivé en France il y a quelques années, on sait que ce dispositif est extrêmement efficace. Et que tout se joue dans ouais, c'est l'Amber Alert, ouais. Mais je ne savais plus si l'Amber Alert avait été inventée aux États-Unis ou au Canada. J'avais un doute là-dessus. On appelle ça l'Amber Alert, effectivement, là-bas. Et donc, c'est très efficace et que tout se joue dans les premières heures, quoi. D'où cette alerte. Voilà. Bon, pardon pour ce petit pas de côté, mais je voulais aussi évoquer cette actualité et puis vous parler de cette alerte, on ne sait jamais. Darling, j'ai pas prévu de parler de l'affaire des menhirs de Carnac parce que je cherche le bon papier, je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Et par contre, dès que je trouve ce papier dans les prochains jours, je reviendrai sur cette affaire qui est assez édifiante. En fait, c'est l'illustration de ce que je vous disais. Plutôt que d'aller trop vite sur un sujet, je préfère prendre parfois un peu le temps. Hein, pour ne pas forcément être le premier à vous donner l'info, mais par contre au moment où je vous la donne, avoir peut-être un peu plus de biscuits. Voilà. Par exemple sur l'affaire des menhirs de Carnac dont vous parlez, moi quand j'ai découvert l'affaire là, je crois qu'on a commencé à en parler hier, je ne sais plus, hein, d'un grand magasin de bricolage qui doit s'installer à un endroit donc à Carnac en Bretagne, et du coup on a viré toute série de menhirs pour le chantier. Et donc, quand vous découvrez ça, quand vous intéressez un peu au patrimoine et à l'histoire, vous dites, mais c'est quoi cette dinguerie ? Voilà. Et donc, ce matin, avec les collègues de France Info, quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est inimaginable. Et puis, je suis tombé, il y a tout à l'heure, sur un article qui donnait un peu une autre version de l'histoire sur le fait que bon, ces menhirs, ils étaient là depuis très 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 longtemps, mais finalement, je vous dis ce qu'il y avait dans l'article, hein, étaient des menhirs de pas une très grande, un très grand intérêt, une très grande importance. En l'occurrence, c'est pas ces beaux dolmens là qu'on voit, ces beaux alignements de Carnac. Moi, j'ai vu une photo du truc, c'est où tu vois vaguement des gros cailloux qui ont déjà été déplacés dans le passé, personne ne disait rien, qui était devenu une décharge, voilà, comme le dit Jean Valdu, effectivement, il a l'info, qui était devenu une décharge depuis 10 ans, le truc était enterré, personne ne s'en occupait, parce qu'en fait, l'intérêt historique, scientifique, conditionnel de ces menhirs n'était pas tellement intéressant, quoi. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin sur cette histoire des menhirs, moi, j'avais besoin, en fait, là, j'ai besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus d'infos pour au moment où je vous raconte l'histoire. Eh bien, je sache quelle est la bonne version. Est-ce que c'est un scandale des magnifiques menhirs super importants sur un plan historico-scientifique qui ont été virés sous prétexte de construire un grand magasin de bricolage, quoi ? Ou alors c'est un truc dont tout le monde se foutait éperdument depuis super longtemps, voilà, et que quand personne ne s'est intéressé et qu'à un moment... une personne lance une polémique, un buzz sur le sujet, alors qu'en gros, personne s'y intéressait depuis super longtemps. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos là-dessus. Donc, je ne vais pas sur l'histoire des menhirs, j'attends un petit peu. C'est une façon d'illustrer la façon dont je travaille, quoi. Comme le dit Arkham Rabnam, le vrai drame dans le fonctionnement des médias aujourd'hui, c'est de chercher à toucher le sentiment plutôt qu'à apporter de l'info. Exactement. Voilà. Bon, Lyotte, je vous en ai parlé, voilà, bon, il n'y a sans doute pas trop de suspense à attendre, l'article 40 va être utilisé par la présidente de l'Assemblée, si ce n'est déjà fait, Et donc, il n'y aura pas de vote sur cette proposition de loi. En tout cas, l'article essentiel, important, faisant revenir l'âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans. On peut dire que c'est un peu l'épilogue de cette crise de la réforme des retraites. Un grand ouf de soulagement, sans doute, pour l'exécutif qui va pouvoir estimer que c'est derrière lui qu'on va pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est l'espoir du gouvernement. Il n'est pas sûr que ce soit l'avis des Français et de l'opposition et des syndicats qui vont peut-être... dans les prochains jours, j'ai envie de dire sûrement les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien, continuer à dire leur colère, leur opposition, mais peut-être sur d'autres sujets. Il y a Poa et Sand qui me demande ça, c'est mignon. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais ça arrive pas souvent. Qui me dit mais pourquoi tu mets pas un fond de musique comme Joe quand il stream, ou Joe comme d'autres. Alors, c'est-à-dire que, si tu veux, moi, comme je vous parle beaucoup d'actualité, et je vous parle, hélas, beaucoup de drames. Là, on vient de parler d'un homme qui a poignardé des gens à Annecy, et notamment des enfants, et notamment des enfants de 3 ans, si tu veux. Imagine que j'évoque ce genre d'actualité, ou l'alerte enlèvement dont on vient de parler, avec une petite musique d'ascenseur bien chill, si tu veux. Là, tu vas tomber sur mon stream, tu vas dire, mais... il est totalement malade, le gars. C'est comme si tu regardais le JT de Laurent Delahousse ou n'importe quel rendez-vous d'info, tu vois, ou un débat politique, et puis t'as une petite musique chill un peu en fond, là, en mode... tu vas dire, mais il est dingo, en fait. Donc c'est très mignon comme idée, mais en fait... mais ouais, voilà, mon petit Patrick Sébastien, les sardines. Mais en fait, sur le papier, c'est une bonne idée, quoi. Mais en fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà, sur un live d'info, comme le dit Nad Malek, pas super judicieux. Merci pour la proposition, c'est mignon, mais voilà, on va pas mettre de musique de fond. Voilà. Pardon. Bon, ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'est une dinguerie, c'est une histoire de fou. Bon, c'est un vieux truc, en fait, parce que ce type d'opération existe depuis super longtemps, sauf qu'on l'a modernisé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un de petit... de petit, comme moi, peut vraiment grandir s'il le souhaite, au prix d'une opération, au niveau des jambes, voilà, qui se fait, voilà. Sauf que, un, c'est over, méga, super douloureux et super cher. Et là, il y a un petit coup de projecteur parce qu'il y a une Allemande, je crois, un mannequin, qui a fait le buzz là, il y a quelques jours avec une photo où elle montre ses jambes. Elle a gagné 14 cm. 14 cm. Donc, moi, je fais 1m67. Donc vous ajoutez 14 cm, ça fait combien? 67 plus 14. Je suis fatigué, je me suis levé à 2h. Comme tous les jours. 1m80, quoi. De Dieu! 1m80. Oh là 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 là. Bon, en fait, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, j'ai pas envie d'être plus grand. Mais c'est impressionnant, quoi. Je sais pas s'il y a de l'oxygène encore. 1m80, moi, j'ai jamais été. Si, quand je change une ampoule, parfois j'arrive un peu dans ces hauteurs-là en montant sur une chaise. Mais effectivement, j'ai remarqué que j'avais du mal à respirer quand je changeais des ampoules. Et je me demande si le taux d'oxygène est le même là-haut. Voilà. Pour dire les choses. Parce que bon, on a besoin d'oxygène pour vivre. Et on a besoin d'oxygène pour penser aussi. Je pense qu'on a besoin de ce carburant, parmi d'autres, pour le bon fonctionnement de nos neurones. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a moins d'oxygène dans les hauteurs. Quoique, normalement, si, hein. Quand tu vas en montagne et tout, plus tu montes, moins tu as d'oxygène. Et que donc les gens qui sont très hauts, hein, 1m80, 1m90, manquent d'oxygène quelque part, et donc ont un fonctionnement neuronal intellectuel qui peut être défaillant. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'à dans mes hauteurs à moi, 1m67, eh bien on respire bien. Bon, sauf à Paris, parce qu'on est au niveau des pôles d'échappement, mais ceci est une autre histoire. Voilà. Donc, oui, alors Yasti qui dit « Je fais 1m88, j'arrive à bien respirer. » C'est ton sentiment. C'est ton sentiment. Tu t'es habitué, si tu veux. Mais rien ne dit que si tu faisais pas 1m50, ça irait plus vite dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Sans compter qu'en cas d'orage, quelqu'un me dit dans le chat, en cas d'éclair sur un groupe, bon, ça arrive peu souvent au quotidien, mais ça peut arriver, c'est toi qui prends, mon chouchou. Hein. C'est-à-dire qu'on est côte à côte, il y a un éclair qui me tombe sur la gueule, c'est pour toi. C'est pour toi. Tiens, tu vois, il y a Eternity qui est dans le chat et il dit « Grand et con, je confirme », tu vois. Voilà. Il y a Poro GG qui dit je fais 1m85, je sais pas comment le prendre. Prends-le bien. Prends-le bien. Enfin, à supposer que tu réussis à comprendre tout ce que je viens de dire, parce que comme tu manques un peu d'oxygène, voilà. J'arrête de dire mes conneries, et maintenant on parle de cette histoire d'allongement des jambes. Donc, pourquoi les feux de l'actualité se portent vers cette histoire qu'on connaît depuis très très longtemps? Parce qu'effectivement, il y a la photo d'une mannequin allemande qui a gagné 14 cm de jambes et fait le buzz sur les réseaux sociaux fin mars. On va aller voir cette photo. Je vais taper jambes. Mannequin allemande. Je crois que la photo fait un peu peur d'ailleurs, parce que c'est vraiment. On voit que les jambes sont très grandes, je trouve, par rapport au reste du corps. Ouais. Bah, elle prend 14 cm quand même. Hein. Oh là, elle est pas belle cette photo. Elle est pas très jolie cette photo. Oh là, faut pas que je me fasse ban, moi. Madame Figaro. On voit rien là. Ça va, je peux montrer ça. Voilà. Voilà. C'est la dame à gauche là. Donc je sais pas si vous voyez. Alors je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais donc là on voit, bon, là, elle a des traces là au niveau, je sais pas si vous voyez de ses jambes là, c'est, voilà. Mais surtout, Théma, la taille des jambes quoi, par rapport à son buste. Ah bon, d'accord, ça se voit un petit peu quoi. Mais c'est peut-être un petit peu la photo qui est en contre-plongée aussi qui fait ça, voilà. Mais bon, voilà. Et là, à droite, vous avez une photo qui fait un petit peu peur aussi sur ce qui s'est passé dans son corps. Et bien, on va en parler justement de ce qui s'est passé dans son corps. Et surtout, constater avec Libération que là, c'est une femme qui a posté cette photo. Mais en fait, que c'est surtout les hommes qui ont besoin de faire appel à cette opération. Pourquoi ? Il y a Anan Malek qui dit dans le chat, mais quel intérêt, quelle motivation pour cette opération ? J'avoue de pas comprendre. Ben justement, on va comprendre grâce à Libération. Je suis passé, dit un monsieur qui a été opéré, de Napoléon à Kylian Mbappé, soit de 1m68 à 1m77. C'est drôle. Par message interposé depuis Los Angeles, Alonso Villegas, 42 ans, enchaîne les blagues pour décrire l'opération de chirurgie esthétique qu'il a subie, pourtant très lourde, quoi. Fin décembre 2021, cet ouvrier du bâtiment à Los Angeles s'est offert un sacré cadeau de Noël. Vous allez voir, il a payé ça assez cher. Il s'est envolé pour Las Vegas, ses casinos, ses spectacles et sa discrète clinique Limplast X Institute planquée derrière des palmiers. C'est en zappant sur une chaîne d'infos continue qu'il entend parler un jour des miracles perpétrés par un médecin qui s'appelle le docteur Kevin Debi-Parchad, chevelure figée par du gel, sourire ultra bright. Ce chirurgien orthopédiste fait partie du cercle très fermé des spécialistes mondiaux de ce qu'on appelle l'allongement osseux. L'allongement osseux, que certains dans le chat rappellent depuis tout à l'heure, quel humour, nom de Dieu, que le pénis n'est pas un os. Voilà, c'est juste pour... Voilà. Je vous vois. Sur son compte Instagram, dans des avant-après un peu surréalistes, il pose aux côtés d'une toise et de chacun des patients dont il a modifié la taille. Voilà, donc dans son cabinet, vous savez, les avant, après, avec une toise. Oui. Monsieur petit, monsieur grand. C'est le même monsieur, mais voilà. Alors certains sont très intrigués, mais alors pour la peau, comment on fait, etc. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc le monsieur dont on parle, Alonso Villegas, n'a pas échappé au rituel promotionnel. Il y a deux photos, effectivement, postées en août 2022. Sur la première, avant l'opération, le médecin dépasse en hauteur le patient. Sur la seconde, prise après la cicatrisation complète, eh bien, il est plus grand que son médecin et il a gagné 9 cm quand même. 9 cm, voilà. Rajouter 1m60, je ne sais même plus quelle taille je fais moi. Combien je vous ai dit ? 1m67 je fais, c'est ça ? Bon, bah, ça fait 1m67. 76. Comment ? Ah, comment ça marche ? Débit mitraillette depuis Las Vegas, le docteur Débit Parchad déroule. Je pratique cette intervention depuis 10 ans, c'est pas très vieux. La technique n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, nous implantons un système dans le fémur, ou le tibia ou le péroné, qui s'appuie sur le principe de la régénération osseuse, qui est un vieux principe qu'on connaît depuis longtemps. Concrètement, attention, âme sensible, s'abstenir. On ne va pas aller voir les images d'ailleurs sur internet. Un clou est placé dans l'os. L'os est ensuite coupé en deux et va se reformer autour de l'implant. L'implant est allongé via une télécommande externe, et c'est vrai, qui est... Pardon. Le pollen qui est commandé par le patient lui-même. Donc attention, la télécommande, c'est t'appuies pas sur plus 10 cm, bam, ou plus 14 cm, bam. C'est pas comme ça, évidemment, là ta jambe explose quoi. Non, c'est, je crois, millimètre par millimètre. Voilà. Commandé par le patient via une télécommande externe, voilà. 1 mm par jour maximum, tchac, avec ta télécommande, jusqu'à la longueur souhaitée soit atteinte. Sauf qu'à chaque fois que tu appuies sur la télécommande, tu douilles ta race. Voilà. Ça fait super mal. Donc, millimètre par millimètre, max, 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 tu veux prendre 10 cm, bah, calcule le nombre de millimètres, quoi. En gros, t'es chez toi et t'appuies, quoi. Sauf que quand tu comprends ce que ça te fait, à mon avis, avant d'appuyer, il faut être motivé. Donc les patients peuvent gagner 6 à 8 cm si on place un implant au niveau du fémur, explique le médecin, mais si on peut faire beaucoup plus, on peut doubler si on opère aussi au niveau du tibia. C'est pas fini, l'article est super intéressant. Le coût, combien ça coûte donne le vertige environ entre 65 000 et 135 000 euros, sans compter les frais pour aller à Las Vegas, bien sûr. Après l'intervention, il faut attendre entre 2 et 5 mois pour marcher sans béquille ou fauteuil roulant. Les patients récupèrent toute leur capacité physique 12 mois après l'opération. Donc vous voyez, hein, c'est une opération super longue. Sur les chantiers californiens, Alonso Villegas, qui s'est fait opérer, donc, a fait les frais de ce parcours post-opératoire très lourd. La douleur était intense, dit-il, surtout au niveau des genoux. Je n'étais pas préparé d'ailleurs psychologiquement à me retrouver en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines, mais je ne le regrette pas. Il a dépensé, frais de voyage compris, 93 500 euros. Avant de devenir une intervention esthétique, l'allongement osseux était une pratique thérapeutique vieille. Moi, j'avais entendu parler de ça il y a super longtemps. Élaboré dans les années 50 à l'époque pour traiter des enfants qui étaient victimes de problèmes de croissance. C'est un médecin russe, un médecin soviétique précisément, Gavril Abramovitch Ilizarov, qui avait découvert cette technique. Il avait découvert en fait qu'en sectionnant un os, eh bien, l'os repoussait. Nom de ce phénomène scientifique, la distraction osseuse par régénération. Du coup, pour allonger les jambes, la solution trouvée à l'époque avait des allures de torture moyenâgeuse, le fixateur Ilizarov. Donc là, l'article nous dit n'allez pas voir les photos, évidemment moi je vais voir, fixateur, ça doit être une dinguerie ça, c'était genre machine de guerre quoi. Ilizarov, oh nom de Dieu, ah, c'est ça, c'est bien ce que je croyais, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça parce que je l'ai fait, parce qu'avant je faisais 1m10. Oh non, tu non, tu. Qu'est-ce que je vais vous montrer là ? Qu'est-ce que c'est affreux, c'est affreux. Bon bah, en gros, c'est ça quoi. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vaille, 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 vaille. Voilà, on voit pas très bien là. Hein. Vous voyez le truc à gauche là ? Aïe, 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 aïe. C'est ça là. Là, celle-là, je veux celle-là. Voilà, bon, en gros, vous voyez ce truc à gauche là. Bon. Ouais, Berk. Quelques secondes suffisent. Hein. Gros le mage, merci pour le 15e mois d'abonnement, c'est adorable. Donc, avant, il y avait ce truc-là. Qu'est-ce que c'est le fixateur Ilizarov ? C'est une cage ronde, métallique, vous l'avez vu, composée de tiges clac, qui percent le membre. Le dispositif est posé autour du membre à allonger. Et puis, bah, de temps en temps, quick, 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 un petit tour de vis et quick. C'est un peu comme un appareil dentaire, hein, finalement, quand on resserre les bagues, là. Sauf que c'est au niveau de la jambe, quoi. Et tu douilles ! Et donc, la nouvelle technologie, ben, c'est un espèce de clou, maintenant, un implant, et c'est relié à une télécommande, et tu douilles toujours, hein. Tu douilles toujours, mais c'est un dispositif interne. Il n'y a pas tous les trucs dans la jambe, quoi. 70 ans plus tard, exit ce dispositif externe, tout se passe avec un clou à l'intérieur, mais le principe reste le même. Voilà. Bon, après, il y a non seulement il y a le petit truc, le millimètre tous les jours, là, mais il y a des exercices, il faut faire une heure d'exercice quotidien pour, bon, bref, sans doute pour, je sais pas quoi d'ailleurs, peut-être pour, au niveau de la masse musculaire, je sais pas. Il y a Raymond qui me demande si la télécommande est filaire ou Bluetooth, je ne sais pas. Un Français, Libération a trouvé un Français qui a fait ce truc. Il s'appelle Pascal, c'est un prénom d'emprunt. Il veut rester anonyme, vous allez comprendre pourquoi. Il se souvient très bien de ce parcours du combattant. Il passe sur le billard à 60 ans, il y a 15 ans. Alors, je sais pas quelle technique il a utilisé. Et, oh putain, là on voit la jambe coupée là. Et il dit, c'était extrêmement douloureux et épuisant, j'ai manqué de courage, j'en ai eu marre des exercices d'allongement quotidien, je n'ai pas pu pousser jusqu'aux 10 cm que j'ai voulu gagner. À l'époque, le clou était plus compliqué à gérer que la technique actuelle, mais le procédé est similaire. Pascal ne donne aucune information sur la clinique française où il a été opéré à l'époque. Il veut rester anonyme coûte que coûte. Il n'en a jamais parlé à ses proches. J'ai caché cette opération. J'avais honte finalement d'être allé jusqu'à là, de ne pas assumer ma taille, hein, finalement, c'est ce qu'il dit. Les gens n'ont pas vraiment remarqué, ils ont eu l'impression que j'avais minci. Bon, ok. Et c'est marrant parce que notre Américain tout à l'heure, Alonso Villegas, n'a rien dit non plus à sa famille, voilà, qui a fait semblant de ne pas avoir remarqué. Voilà. Tous deux nourrissaient, on y vient, le pourquoi du comment, un complexe qui les dévorait depuis l'enfance, leur petite taille qu'ils considéraient comme rédhibitoire pour séduire. Les femmes ne veulent sortir qu'avec des grands types. C'est pas vrai. Mais Bibi, il est tout petit. Bon, bah, il a une vie amoureuse comme tout le monde. C'est leur premier critère de sélection, dit Pascal. Premier critère de sélection, c'est la taille. Est-ce que... Oh là là, il y a Arta Pandore qui dit c'est un peu vrai quand même. C'est la majorité, dit Pomme. Bah non, je pense pas, moi. Oui, pas du... Ah, il y a des gens qui pensent que... Il y a des gens qui pensent que oui, hein. Pierre Gloom, je te lis, mais je ne lis pas ton commentaire qui est trop hardcore. Merlin, qui est très romantique, nous dit c'est pas la taille, c'est l'argent. Voilà. Stick88 qui constate qu'effectivement, pour Hélène, pour mon amoureuse, clairement, ça n'est pas la taille. Je confirme. La taille, bon, bref. Donc Pascal dit les femmes veulent sortir avec des grands, les hommes petits, elles les trouvent mignons, mais elles ne les regardent pas. Bah, c'est, de toute façon, si elles sont trop grandes, c'est pas qu'elles ne les regardent pas. C'est pas le bon terme. C'est. Quand la femme est vraiment très grande et que l'homme est vraiment très petit, c'est pas qu'elle ne le regarde pas, c'est qu'elle ne le voit pas. Ce qui n'est pas la même chose. Même avec centimètres, avec 5 cm, j'ai gagné confiance en moi. Ça s'est senti dans mes rendez-vous galants. Complexe masculin, Kevin, débit par chat, qui est le docteur, confirme. 80% de mes patients sont des hommes, tous âges confondus. La taille reste l'attribut masculin par excellence. Mais d'où ? Mais d'où ? C'est fou ça, tous ces gens qui disent qu'il faut être grand. Elle va de pair avec la posture, la confiance en soi. Bon, j'ai beaucoup de confiance en moi. Moi, je suis minuscule. Je reçois beaucoup d'hommes politiques en campagne, de chefs d'entreprise, d'acteurs qui pensent décrocher un, qui peinent à décrocher un rôle. Très bizarre. Cette histoire-là. Oh la machine de torture. Ah, ce serait... C'est ça le clou ? Ah ouais, mais c'est un clou. Ok, j'avais pas compris. C'est pas un clou comme ça. Ok, c'est le clou, il est comme ça. Ok, d'accord. Il y a du vrai, arrêtez de vous voiler la face. Ah oui, il y a quand même de la discrimination contre les petits, là, je vous lis. Hein. Je suis plus grande que mon homme, ça n'a jamais posé de problème. Me dit Léla Montin. Hélène, elle est plus grande que moi. Elle, mon amoureuse, elle est plus grande que moi. Et ça le fait, voilà. Parfois, bon, à l'époque, on sortait... On avait une vie sociale. Maintenant, on n'en a plus. Il y a les enfants, il y a le travail. Mais à une époque, on avait une vie sociale. Ça nous arrivait de sortir. Elle mettait des talons. Si elle a envie de mettre des talons, elle met des talons. Et j'étais très, très, très petit par rapport à elle. Ça me faisait marrer plutôt. Voilà. Vous en pensez quoi, vous ? Ah, Silent Cheetah, qui est peut-être une fille, nous dit « Moi, j'aurais du mal, je te l'avoue, Samuel. » Ah, il y a Astromoon qui dit « Je fais 1m76, j'avoue, je ne suis pas particulièrement enthousiaste à l'idée de sortir avec quelqu'un d'1m60. » Ah bon, d'accord, ok. Donc c'est un critère, ok. Moi, je suis un peu surpris, en fait, que c'est... Ouais, je sais pas. Merci, Nimla, pour le gentil message. Ok, c'est marrant ça. Oh, mais vous êtes vachement, hein, les meufs, hein, pardon. Hein. Cyriel me dit, je suis petite, je veux au moins 1m80, ça me fait sentir en sécurité. C'est une vanne ou c'est un vrai truc ? Ah, c'est bizarre. Moi, je me sens pas, voilà. Moi, je l'ai jamais ressenti ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je pense que j'avais une anecdote pourrie à vous raconter. Ah oui, oui, j'aime bien raconter des anecdotes pourries. Là, j'en ai une. J'étais au ski il y a quelques années quand j'étais plus jeune. J'étais déjà avec Hélène. Et on rencontre, je sais pas, une maman qui était une amie de la famille d'Hélène sur les pistes de ski. Bon, voilà. Bon, moi je suis un peu sauvage, mais bon, on va faire des efforts pour sociabiliser. Donc Hélène me présente, puis on skie un peu avec la famille qui avait des petites filles. Voilà. Et puis, donc on skie, tout ça. Et puis à un moment, la petite fille vient s'arrêter à côté de moi et me regarde. Moi je suis plutôt cool avec les enfants, c'est un âge un peu mignon. Et donc j'essaie d'être assez prévenant, gentil, tout ça. La petite fille me regarde avec son petit visage d'ange et à côté d'Hélène me regarde comme ça et me fait Ah mais t'es tout petit en fait. Mais par rapport à ton épouse t'es tout petit. Tu vois, donc déjà ça fait deux trucs, tu vois. Attends, et le troisième truc arrive, il dit c'est ridicule. Parle d'une petite fille de genre de moi 8 ans, 8 ans, 10 ans. C'est une vraie histoire. Mais qui lui a mis cette merde dans la tête à cette petite là? Qui s'est pris un coup de bâton dans la gueule d'ailleurs, parce qu'on était au ski, je peux dire que la maman était descendue un peu plus bas, je peux dire que je lui ai déglingué la tête, hein. Non, pas évidemment, non, quoi. Si la nuit suivante dans mon rêve j'ai fait ça, mais comment on peut le penser déjà? Comment on peut penser ça, que c'est ridicule? C'est pas ridicule. Et comment on peut le dire, le verbaliser? Mais c'est monstrueux. Hélène était là, hein. Elle était là, elle était. Je crois qu'elle a ri d'ailleurs. Et moi j'ai dit, mais non. Non, j'ai gardé mon sang-froid, je ne lui ai pas du tout démonté la tête à coups de bâton. Et je lui ai dit, mais non, pas du tout. Connasse. Incroyable, hein? C'est méchant, hein? Ouais. C'est fou, une vraie histoire, ça. Bon. Mais c'est la seule fois dans ma vie où on me. Voilà. Sinon, ça m'a trop gêné. Voilà. Bon, voilà. C'est à lire dans Libération. Si ça vous intéresse, ce papier. Si vous intéressez, ça coûte genre 80 000 balles, 100 000 balles, 120 000 balles. Culotte courte dit, est-ce que tu l'as revu ensuite cet enfant? Non, je l'ai jamais revu. Jamais revu. Mais d'ailleurs, j'avais un truc super bizarre parce que quelques jours après, j'ai entendu parler dans la presse régionale d'une enfant qui avait disparu, dont on n'avait pas de nouvelles, mais je crois pas qu'il y ait de lien entre ces deux informations. Allez, je vous lis un petit peu, je m'hydrate et puis on enchaîne avec un truc. Pff, la drogue, c'est mal, la drogue. On va parler de la drogue. Ouais. Jérémy Ferrari sort de ce corps. Maf dit, après, j'ai déjà eu plusieurs gars qui refusaient que je porte des talons parce qu'ils voulaient pas que je sois plus grande qu'eux. Moi, en vrai, moi, là, je me vante pas, c'est un truc que je vis bien, ça. Hélène, elle est plus grande que moi, les talons, elle est encore plus grande. Je pense que quand on sortait, ça nous arrive moins. Je pense qu'il y avait des regards, parce que c'est vrai, la différence est quand même assez flagrante. Je pense qu'il y avait des regards sur nous, notamment quand une fois que j'étais passé dans mon dos. Mais en vrai, voilà, je suis pas sûr que, voilà, je suis pas sûr que si j'avais été grand, ma vie aurait été plus belle, quoi. Voilà, je le vis bien. Alors, hop, ça y est, tout le monde m'envoie les audiences, puisque c'est le matin, c'est comme à l'école, on reçoit, quand on travaille en télévision, on reçoit les audiences le matin, donc on regarde rapidement pour voir si ça va, si le travail de l'équipe est récompensé, tout ça, tout ça, tout ça. Question pour un champion, ok, ça marche. En plus, chez Roland Garros, en ce moment, on se débrouille plutôt bien, et France Info, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi des bons résultats pour l'équipe? C'est moi qui leur envoie l'audience après, et je suis très content quand l'audience est bonne parce que je sais que ça les encourage un petit peu. France Info Médiamétrie, ça tombe à 9h pour Question pour un champion et à 11h pour France Info. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Et donc là, c'est pour les 4 ans et plus. Et j'ai l'audience aussi pour un public plus jeune. Parce qu'en télé, on a différents trucs pour les 15-49. Ok. Ah, C'est marrant parce que là, d'ailleurs, la matinale de France Info a un public très jeune, beaucoup plus jeune que les autres chaînes d'info. C'est pour ça que ce critère, il est intéressant. Hop, je copie-colle les audiences, pardon, pour les envoyer à l'équipe de la matinale, à moins qu'ils les aient déjà. Je crois qu'ils n'ont pas. Voilà. Bon, c'est pour les remercier de leur travail. Alors, je vérifie que j'envoie le bon chiffre. On est bien mercredi hier, le chiffre de la journée et le chiffre de notre tranche. Ok, on y est. Tac, voilà. Excusez-moi. Bon, là, on va parler d'un truc. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment hésité à vous en parler, ça. Voilà. Tiens, il y a Tigrou Zambel qui écrit: Samuel, toi qui vois souvent des mauvaises nouvelles, comment tu fais pour supporter ça? Bon, ben, je me suis habitué, hein, j'ai pris de la distance par rapport à ça. C'est comme un chirurgien qui opère, on dit que les chirurgiens, après, ils voient plus le sang, ils voient plus tout ça, ils sont concentrés, tellement concentrés sur le geste, mais en fait, ils voient plus le corps, la douleur, ils sont sur un geste technique, ils ont besoin de cette prise de distance salutaire, bien sûr, pour pas trop s'impliquer. Bon, moi, un journaliste, je pense que c'est un peu comme ça, il finit un petit peu par s'habituer. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais est-ce que je leur parle de ça? Franchement, comment la drogue alimente l'explosion de la violence? C'est du Figaro ce matin. Je me dis, est-ce que j'ai besoin de leur parler de ça? Et oui, j'ai pris la décision que oui, parce que c'est un fait de société. Manifestement, il y a quand même un vrai problème autour de la violence, autour du trafic de drogue dans notre pays, qui touche de plus en plus des villes moyennes et petites villes. Et là, il y a un phénomène qui est quand même super préoccupant, qui est au-delà de la drogue et de la question de la consommation, se pose quand même la question de la violence des opérateurs de ces trafics, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, si, c'est pas une actualité très très joyeuse, mais c'est une actualité qui peut-être pas nous parle de notre quotidien, mais qui parle quand même du quotidien de certains Français qui vivent dans ces villes, dans ces quartiers touchés par ces trafics. Et là, je me suis dit, il faut leur en parler quand même. Donc ça donne ça: comment la drogue alimente l'explosion de la violence. Entre les agressions commises par, bon là je suis assez choqué par le mot, mais le Figaro l'utilise, les camés. Ok, je ne pensais pas qu'on utilisait encore ce mot, qui est quand même très particulier. Bon, c'est celui du Figaro. Entre les agressions commises par les camés, j'avoue que je suis un peu surpris par l'utilisation de ce mot par le Figaro, mais bon. Et les règlements de compte entre dealers, la consommation et le trafic de stupéfiants font le lit de la criminalité en France. Bon là, il n'y a pas de débat, je pense qu'on ne peut pas le contester. Une médiathèque, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, une médiathèque et deux écoles fermées à Nîmes et Valence, un énième règlement de compte à Marseille en 3 jours seulement, le relevé. Des faits divers qui sont liés au trafic de drogue est vertigineux. Entre les agressions commises par les toxicomanes, oui, je préfère ce mot, voilà. Camé, sérieux. Et les guerres de territoire auxquelles se livrent les dealers, la drogue est plus que jamais le carburant du crime. En France, gangrenée en profondeur, Marseille en est la première victime. 23 fusillades mortelles ont éclaté depuis le début de l'année. 23 morts. Contre 32 sur l'année 2022. C'est fou. Quelqu'un me dit, ils ont mis camé pour pas mettre toxicomane pour éviter la répétition. Ouais, vaut mieux, dans ces cas-là, vaut mieux répéter. Hein. Tu peux être drogué, tu peux en trouver d'autres, quoi. Et ça nous donne cet édito de Laurence de Charette face à la barbarie. Pour le coup, le constat est quand même un petit peu inquiétant, quoi. Lundi, à Nîmes, le maire a donc annoncé la terrible décision de fermer la médiathèque, l'un des derniers services publics d'un quartier, le quartier de Pissevin. Les dealers ont conquis le territoire par la terreur, ils ont instauré des barricades, des checkpoints pour protéger leur commerce, et l'autorité publique s'est rétractée, la médiathèque a fermé. C'est vrai que c'est un petit peu problématique. Mardi à Valence, deux écoles primaires ont gardé porte close. Valence, donc, c'est dans la Drôme, hein, c'est une très jolie ville. Les parents ont été menacés de mort en accompagnant leurs enfants en classe. C'est pas possible. On va revenir tous vous tuer, vous gêner notre business. Leur ont hurlé à des parents d'enfants, d'élèves, des trafiquants au milieu d'une bagarre. Voilà. Et là, deux écoles, mardi, du coup, ont fermé, je l'espère, momentanément. Il y a 2 ans, Bac Nord, pourquoi le Figaro nous parle de ce film? Un film inspiré de faits réels au succès retentissant montrait sur grand écran l'affrontement sanglant entre les forces de l'ordre et les bandes prêtes à tout pour développer leur trafic. Le cinéma dévoilait sans phare cette barbarie qui gagne nos sociétés, cette violence sans fond qui ruisselle des grands jusqu'aux enfants et des quartiers aux campagnes. La réalité est plus terrible encore que le film. Et elle révèle la mécanique mortifère désormais à l'œuvre dans de nombreuses communes. Les chiffres établissent très clairement l'explosion du trafic de cocaïne, notamment au cours de la dernière décennie, et les élus tétanisés constatent tous les jours la progression de l'emprise mafieuse et de la victoire sur la civilisation. Intéressant ce mot civilisation parce que c'est pas totalement anodin que le Figaro l'utilise, on en a parlé récemment de l'utilisation de ce mot par une partie de la droite ou encore de l'extrême droite ou plus récemment par le président Macron. Mais je passe. L'explosion des drogues, ces mangeuses d'âmes et de corps, décrit le vide qui habite nos sociétés avides de superpuissance et de fausse liberté et cette solitude existentielle qu'évoquait si bien Bulgakov, qu'un écrivain russe. Difficile de nier cependant qu'une bonne part d'angélisme et beaucoup d'aveuglement, ces ferments de l'impuissance générale qui nous guettent, ont accompagné le développement des drogues, notamment de celles dites douces. Que la douceur est pourtant loin des réalités, écrit Laurence de Charette. Les policiers le savent bien, c'est une guerre de conquête que mènent les mafias, une guerre dans laquelle l'État n'a que trop reculé. C'est le regard du Figaro là-dessus. Fraise Lover est arrivé sur ce stream au moment où je parlais de cacaïne. Et ça t'a fait bien rire, et tu as bien raison. Merci Giuseppe pour le 9e mois d'abonnement et le gentil message. Merci Nimella pour le 4e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup. Et vous, vous en pensez quoi, vous ? Samuel, un autre Samuel. On aurait moins de problèmes avec la drogue si on considérait les drogués comme des malades avec un problème d'addiction plutôt que comme des criminels et si on prenait réellement les moyens de lutter contre les trafics illégaux en dépénalisant certaines drogues et en mettant en place un commerce légal, c'est un débat qu'on a régulièrement sur cette chaîne, et en prenant les mesures nécessaires pour traiter la délinquance déjà existante. C'est aberrant qu'un établissement public ait dû fermer. Là, on parlait de la médiathèque et puis de deux écoles primaires, je l'espère provisoirement. Spatule, comment te donner tort ? C'est aberrant, tu as raison. Merci d'avoir 88 pour le 15e mois. Merci à toi. Ça en est où de la légalisation ? Riftaget, je peux dire que... Alors, chez nos voisins allemands, c'est un truc ça qui est lancé, là. Pour l'instant, à titre d'expérimentation dans certaines régions, ils sont revenus un petit peu en arrière. Chez nous, je peux dire que c'est pas pour demain. Hein. Vu le débat politique là-dessus. Cannoli, c'est faux, mais merci de ton message. C'est super gentil. Là, vous êtes très nombreux à parler de cette question de la légalisation ou de la dépénalisation, c'est pas la même chose. Exutoire écrit, il faut légaliser le cannabis et en faire un monopole d'État. C'est un sujet qu'on a très souvent abordé ici. Oui, Annecy, pour ceux qui nous parlent d'Annecy, on est allé voir ce drame d'Annecy. On va y revenir tout à l'heure pour voir si... On en sait un peu plus sur ces personnes attaquées dans un parc à Annecy par un homme avec un couteau, dont des enfants. On va y revenir tout à l'heure, on ira voir un petit peu. La personne, a priori, a été interpellée. On va voir si on connaît son identité. On ira voir aussi ce que devient cette petite fille de 8 ans qui a été enlevée par son père. Et dans l'affaire dans laquelle il y a une alerte enlèvement qui est diffusée sur tout le territoire. Et puis on ira voir aussi, on en est la loi Liot, puisque j'ai cru comprendre que l'article 40 avait été invoqué et que du coup, c'était plié comme je voulais annoncer. Je vous lis sur le trafic de drogue. Alors quand je disais que c'était un phénomène qui touchait de plus en plus des villes un peu plus petites ou moyennes, Bon, même si Rennes n'est pas une petite ville, mais moins importante qu'une ville comme Marseille, bien sûr. Il y a Lilou qui vit à Rennes et qui nous dit les enfants dans le trafic, on en parle trop peu. À Rennes, dis-tu, moi j'ai pas connu ça pendant mon enfance, mais c'était il y a très longtemps. C'est terrible à voir. République, c'est un quartier autour d'une place, place de la République, est envahi par le trafic et les enfants qui y participent sont de plus en plus jeunes. Écoute, ce que tu me dis est hallucinant, quoi. Grimfar, plus de 4 ans que je roule toutes les nuits sur Montpellier. Les points de deal sont toujours les mêmes et personne n'intervient. Les amis, je vous propose d'aller prendre des nouvelles de, des informations que je viens d'évoquer, à commencer peut-être par la proposition de loi Liotte, hein, dont on sait qu'il n'y a aucune chance qu'elle soit votée, puisqu'il n'y a aucune chance qu'elle soit soumise au débat et au vote, puisque le gouvernement, la majorité, a fait ce qu'il fallait. Pour ça, on va aller voir ce qui se passe de ce côté. Il faut que je me relance un petit peu avec un petit coup de café, là. Et on va aller voir. Ouais. Elle vient d'être retirée. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Je finis mon. Je vous mets. Quelle heure il est ? 2 heures sans pause musicale, les gars. Je vous mets une petite pause musicale. Je vous mets 2 minutes de pause musicale. Je me coule un petit expresso. Et puis, parce que là, il me faut l'énergie pour me lancer dans, dans cette aventure de la vérification des dernières infos. On va faire ça. Puis après, on parle d'OVNI. On parle d'OVNI, on parle d'extraterrestres, puisqu'ils sont parmi nous, je vous le rappelle. On va en parler, on va parler de la santé du pape, on va parler de l'argent que l'Arabie Saoudite est en train d'investir. On parle de milliards, de milliards, de milliards, de milliards dans le sport. Pourquoi, comment ? Voilà, ça nous fera parler un petit peu de Messi. Et puis je vous expliquerai pourquoi demain on pourra payer ou comment avec sa main, avec la paume de sa main précisément, parce qu'il paraît que ça va être super sûr. C'est un nouveau machin, c'est un papier que j'ai trouvé dans les Échos. Les Échos ont pris une petite douche de coca tout à l'heure, mais je devrais essayer de récupérer le papier. Amis, des ovnis, je vous dis à tout de suite. Je vous mets une petite pause, je vous mets 2 minutes, 3 minutes de musique max. Petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je me coule un petit expresso et je suis à vous. On a le temps ce matin, c'est cool, je bosse pas demain. Ah si, j'ai un stream demain, demain 20h. Ça me plaît, ma première émission de gaming. À demain soir. À tout de suite, je reviens, mais là, hein, dans 2 minutes. À tout de suite. Mignon ça, la petite pop là. Feeling locked up in your room, the hopelessness sets in again. Getting lost, getting confused. You start to ask yourself what's going on. Ah, ça veut ça, pas tout de suite. What the hell am I doing? Losing sight of everything that I'm making. Scream real loud until your voice just gives out. Cross the walls, then pass out. Giving it to your brain. Face down in your pillowcase, tears falling from your face. You go back down, hoping no one's around. I know you're feeling down, your mind deep in the ground. One day you're calling out, but things don't have to suck. Even though I'm broken with dialogue, things don't have to suck. And no one loves you anymore, things don't have to suck. So when the darkness wears you like, feeling numb, tired of feeling dumb, tired of feeling like everything's not good enough. And we should just give up. 20 and out of luck, the end is knocking at our door. Nothing's right, I'm torn. Face down in your pillowcase, tears falling from your face. You go back down, hoping no one's around. I know you're feeling down, your mind is the ground. One day you're calling out, but things don't have to suck. Even though we're broken with dialogue, things don't have to suck. And no one loves you anymore, things don't have to suck. So when the darkness wears you like a crown, a white daylight will come alive.
darkness, praising like a crown. No one till I will come around, it'll come around, come around, come around, come around, come around. Even though I'm broken, I die alone.
She's so after sun.
Ain't no one loves you anymore.
She's so after sun.
Show us the darkness, where's you like a crown?
Bonne journée Inforia. Allez, on arrête cette musique bien entraînante, c'est bien. Est-ce que l'actu qui arrive va nous mettre au fond du trou? Non, ça va, on va parler des ovnis, car ils sont là, car ils existent. Oui, voilà, si vous en doutez, moi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer aussi. Putain, j'ai une mare de coca. J'ai ma carte d'acquisition là, qui baigne dans une mare de coca. Je n'avais pas vu ça fait une heure. Bougez pas, les amis, je vais juste éponger. Hein. Voilà, le streamer dégueulasse, à un moment, il faut dire les termes, quoi. Voilà, tout ça à 2 cm d'une prise électrique. On est bien. Non. Samuel, il stream, ouais, c'est carré ce qu'il fait. Ah non, c'est maîtrisé. Hein. Non, techniquement, il est au point. Ouais, bien sûr. Dégueulasse. Une mare de coca, quoi. Une mare de coca. Ah, le crado. Donc oui, dans un instant, je vais vous expliquer que les extraterrestres sont là. Ils nous regardent, voilà. Ils nous laissent tranquilles pour l'instant parce qu'ils ne nous trouvent pas très, très, très malins. Mais ils sont là, aussi clairs que 2 et 2 font... Aussi clair que 2 et 2 font 5, eh bien, je vais vous expliquer que les extraterrestres existent. Mais d'abord, on va parler un peu sérieusement et on va aller voir où on en est de cette proposition de loi Liotte, puisqu'on me dit, c'est pas vraiment une surprise, hein, que c'est plié de chez plié, que même le groupe de l'Assemblée Liotte aurait retiré carrément sa proposition de loi. Allons voir cette info. Voilà. Et après, je vous parle des ovnis. Eh oui, c'est ça. Hop, article du Monde ici, publié il y a quelques minutes. Liotte, donc, retire...
Ce matin, tous ces amendements ont été rejetés sur un fondement que nous contestons.
retire sa proposition de loi visant l'abrogation de la réforme, et pour cause, il ne pouvait pas remettre dedans l'amendement principal qui avait été sorti en commission des lois, puisque la présidente de l'Assemblée avait dit qu'elle allait utiliser l'article 40. Voilà. Voilà, on est là. Ok. Franceinfo.fr. Voilà. Très bien, bien foutu ce truc. Le groupe Liotte a donc annoncé tout à l'heure qu'il retirait son texte visant à abroger l'âge légal de départ à 13 à 64 ans. Le président du groupe Liotte, qui s'appelle Bertrand Pancher, a expliqué qu'il restait plus rien dans ce texte, dont la plupart des amendements ont été jugés irrecevables. Donc, en responsabilité, nous retirons notre texte. Tu m'étonnes, tu ne vas pas faire voter les textes, les gens sur les textes qui sont vides, en fait, des éléments les plus importants. Un peu plus tôt, c'était hier, Yaël Braun-Pivet, qui est donc la présidente Renaissance de l'Assemblée, avait annoncé que, de toute façon, qu'elle ferait barrage à cette mesure d'abrogation de la réforme. Je suis très clair, a-t-elle déclaré hier, ces amendements seront déclarés irrecevables. J'applique la règle, rien que la règle, se défend-elle, faisant allusion au fameux article 40 de la Constitution, qui, je vous le rappelle, même si on en a parlé tout à l'heure, proscrit toute proposition d'origine parlementaire, créant une charge pour les finances publiques. Évidemment, ça aussi c'était prévu, l'opposition dénonce, s'insurge, mais ça c'est normal. Non, non, Renaissance, c'est pas Zemmour, Renaissance, c'est le nouveau parti... C'est l'ex... comment ça s'appelait avant les macronistes Va me revenir. En marche. Voilà. Et Zemmour, c'est comment ça s'appelle le parti de Zemmour? Comme on n'en parle pas souvent parce qu'aux élections, c'est une catastrophe à chaque fois. Reconquête. Voilà la gueule de la Reconquête. Bon, donc, les oppositions sont en colère, tu m'étonnes, ont vivement protesté contre la décision de Yael Braun-Pivet, le groupe Liotte dénonçant une attaque inédite contre les droits du Parlement. Pour Manuel Bompard, qui était un élu LFI, eh bien, ils ont peur de perdre, donc ils veulent empêcher les députés de voter. C'est exactement ça d'ailleurs, ça pour le coup c'est pas une analyse, c'est sûr. Si le gouvernement, la majorité ont tout fait pour que cette loi soit pas adoptée, c'est qu'ils avaient très très peur effectivement qu'il y ait une majorité. Il faut savoir que sur une loi, il n'y a pas besoin d'une majorité absolue, hein. Donc la moitié des députés par exemple pour faire passer un texte, comme par exemple pour une motion de censure, il faut une majorité relative, suffit, il faut que ce jour, le jour du vote, au moment du vote dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, il y ait plus de députés à voter pour un texte que contre, et ça passe quoi, et ça passe, voilà, voilà. Colère à gauche, colère du groupe Liotte, colère à l'extrême droite dans l'opposition également. Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée, explique qu'il n'y a jamais eu de vote. Le pouvoir l'a toujours empêché. C'est scandaleux. Voilà. Pour ceux qui parlent d'Annecy, vous inquiétez pas, on va retourner voir les dernières infos sur ce drame qui s'est déroulé à Annecy. Donc, bon, bah voilà, là on est dans l'épilogue. Hein, c'est fini aujourd'hui. Hein. L'opposition, les syndicats, tout le monde, tous s'accordent à dire que c'est fini. La bataille, aujourd'hui, là. La bataille de la réforme des retraites est terminée. La loi est promulguée. Les décrets d'application sont en train d'être pris. La 14e journée de mobilisation, il y a Hugo Ligne qui dit « rien n'est fini ». Si, sur la réforme des retraites, c'est fini. Aujourd'hui, la mobilisation de la 14e journée a été très très, faible par rapport aux journées précédentes. Et le dernier espoir, qui était cette proposition du groupe Liotte, n'a même pas été mise en débat. Donc c'est fini sur cette séquence. Alors évidemment, cette colère d'une partie des Français, colère d'une partie de la rue, colère des syndicats, colère de l'opposition, on va la retrouver sur... Oh, merci pour le raid, Jean. Ça doit... Ah, bah c'est... Oh, le... ah ouais, mais c'est quoi ce raid de fou? Waouh, ça fait des années-lumière, j'ai pas reçu un... Vous étiez tellement nombreux chez Jean. Merci. Jean, merci du cadeau. On a évoqué à plusieurs reprises dans cette revue de presse ce matin, Jean, mais tu dois t'en douter. Ce qui s'est passé, et je sais que tu l'as merveilleusement mieux qu'expliqué, fait vivre à tes viewers ce matin, autour de la proposition de loi du groupe Liotte visant à annuler la réforme des retraites. On en a parlé au début avec les articles de Libération, c'est aussi la une de l'Humanité. Puis là, on revenait un petit point, puisque dans le chat, et notamment des gens qui étaient chez toi, on nous disait que la proposition de loi avait été retirée par le groupe Liotte. Et j'expliquais à l'instant, je pense que tu seras d'accord avec moi, Jean, que dans cette séquence, finito, la bataille de la réforme des retraites, terminée, les syndicats l'avouent eux-mêmes. Et je disais dans le même temps, parce que certains me disaient dans le chat, c'est pas fini, que cette colère d'une partie des Français, des syndicats, de l'opposition, on va la retrouver sur peut-être les prochaines réformes. Là, je pense à la réforme du travail, je pense à la réforme du RSA, notamment. Il y avait un article hier qui disait quelque chose de très très intéressant que Jean a peut-être vu. C'est que le président Macron avait réussi un truc malgré lui dans cette séquence. C'est intéressant ce que dit Jean Massier, le mouvement social n'a pas dit son dernier mot, on verra. Moi je pense que sur la réforme des retraites, le mouvement social, même s'il a encore un mot à dire, a perdu son bras de fer. C'était l'espoir du président Macron et de l'exécutif, du pourrissement, de la fatigue des opposants et tout, qui s'est vu dans la rue au 14e jour. En revanche, il y a un truc qui est né de tout ça. Une unité syndicale comme on n'avait pas vu en France depuis très 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 longtemps, qui a tenu jusqu'au bout, jusqu'à la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette unité syndicale, pas vue depuis très très longtemps, par exemple avec deux syndicats aussi différents, sinon opposés, que la CFDT et la CGT, elle a tenu jusqu'au bout. Et cette unité, si elle se maintient pour les prochains combats des syndicats, en fait, elle est très intéressante, voilà, dans le rapport de force dans notre pays. Après, rien n'est jamais fini, bien sûr. Moi, je dis que cette séquence-là, aujourd'hui, hein, 2022-2023 sur la réforme d'entête est terminée, mais il y aura d'autres séquences, ne serait-ce qu'aux prochaines élections, bien sûr, puisqu'il y a des européennes dans pas longtemps. Il y a la présidentielle, bien sûr, en 2027, voire avant, si le président, un jour, décide de démissionner. Et donc, pour les retraites, cette séquence se ferme et close aujourd'hui, mais il y aura d'autres combats, bien sûr, politiques, pendant toute la durée du quinquennat. Comme Jean le disait pas plus tard que la semaine dernière dans l'hebdo Étienne, il reste 4 ans. Il reste 4 ans au deuxième quinquennat du président Macron. Quand on voit combien il est difficile de gouverner sans majorité, notamment actuellement, comment vont se dérouler ces 4 ans? Comment le président Macron va-t-il continuer à réformer selon ses souhaits et ses valeurs? Ça, je pense que Jean vous en parle régulièrement. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir, amis et viewers de Jean. Démissionner, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai que ce mot vous a choqué. En fait, c'est théorique. Le président Macron peut à tout moment démissionner, lui, hein, en sa personne, voilà, et ça provoquerait une nouvelle élection présidentielle. À un moment, je sais que Jean s'est intéressé à ça, certains constitutionnalistes d'ailleurs s'étaient penchés sur cette hypothèse. Vous savez, la Constitution française, elle interdit plus de 2 mandats consécutifs du président, donc 2 quinquennats. Et donc à un moment, certains constitutionnalistes s'étaient posé la question. Imaginons que le président Macron démissionne avant la fin du deuxième quinquennat. Du coup, il n'aurait pas fait 2 quinquennats. Il aurait fait, je ne sais pas moi, 5 et 4 ans. Dans cette hypothèse-là, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait la possibilité de se présenter à un troisième mandat? Genre pour faire genre 5, 4 et 5. Certains constitutionnalistes disaient, sur le papier, la Constitution ne dit pas clairement si ces 2 mandats consécutifs terminés, achevés, et dans ce cas-là, si on démissionne avant la fin, on peut se représenter pour un troisième. Et d'autres constitutionnalistes disaient non, arrêtez avec vos conneries, c'est 2 mandats consécutifs, point, quoi. Je sais que Jean s'est posé la question, je pense qu'il a la réponse aujourd'hui. Moi, je pense que l'esprit de la Constitution, sinon la lettre, c'est 2 mandats max, quoi. 2 mandats max, voilà. Donc, théoriquement, c'est pour ça que j'évoque ça. Après, il y a d'autres possibilités, une dissolution de l'Assemblée, bien sûr. Voilà, après, une dissolution de l'Assemblée aujourd'hui par le président Macron, ce serait prendre le risque que les députés Renaissance soit encore moins nombreux, forcément, donc c'est pas forcément un move à faire à court terme, quoi. Voilà, je vois que là, il y a les habitués de gens qui connaissent bien ces sujets. John Seed, par exemple, écrit Debré a dit, lui, donc Jean-Louis Debré, hein, que la Constitution dit 2 mandats consécutifs ou pas, complet ou partiel, etc. C'est aussi mon avis. Alors, qui voterait pour un mec qui a démissionné, dit Lamar de Lanard. C'est intéressant. En fait, quelqu'un qui veut démissionner pour le coup d'après, pour l'élection d'après, ou qui décide une dissolution pour provoquer des législatives, il le fait à un moment opportun pour lui. C'est-à-dire une courbe de popularité, ça monte, ça descend. Par exemple, en ce moment, ça va étonner certains, mais la courbe de popularité du président Macron, elle a tendance à remonter un peu. Voilà. Et notamment auprès de ses... De ces supporters qui ont pu s'éloigner ces derniers mois, mais qui reviennent là. Donc la courbe de popularité du président Macron actuellement, elle remonte un petit peu. Mais quelqu'un qui décide de démissionner pour tenter le coup d'après, ou qui dissout l'Assemblée pour provoquer des législatives, c'est qu'il le fait à un moment opportun, à un moment où il est dans une séquence positive, et où il se dit, bon là, il y a coup à jouer, quoi. Voilà. On est sur de la théorie, de l'hypothèse et de la fiction politique, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est toujours amusant. Fabi Wan me rappelle que De Gaulle a démissionné, c'est vrai, mais De Gaulle a démissionné pour partir. Hein, il avait perdu le référendum qu'il avait proposé aux Français, et donc il s'était dit, bon, si c'est comme ça, je m'en vais. Il n'était pas parti pour revenir. Ami de Jean Massier, merci beaucoup, et Jean, merci beaucoup pour ce raid, c'est super gentil. Tu sais le bien que je dis au quotidien, et mes viewers en sont témoins, de ton travail, et c'est très sincère. Et merci encore d'être venu si souvent dans l'hebdo Étienne. Alors là, Jean, si tu es toujours là et ami de Jean, vous allez halluciner, puisque maintenant je vais vous lire un papier sur les ovnis, sur les extraterrestres, et on va apporter une forme de crédit à un monsieur qui dit que ça existe. Voilà. Et même que certains États seraient au courant et qu'un... Et là, les gens qui viennent sur cette chaîne pour la première fois vont dire « Ok, ce mec est malade. » Et que dans les années 30, 1930, en Italie, un ovni se serait crashé et que l'ovni serait aux mains actuellement de chercheurs, notamment américains, et qu'ils bosseraient dessus pour confirmer que c'est d'origine extraterrestre et comprendre les technologies, etc. Ne me regardez pas comme ça. Ce monsieur le dit, et ça y est, ça rigole, et c'est la une du Parisien. Alors, essayons de voir un petit peu cette histoire, si c'est complètement du flan... Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Je sais, ça fait rire. Je sais, ça fait rire. Voilà. États-Unis, cet homme, c'est pas moi, c'est lui, relance le débat sur les ovnis. À Washington, cet officier du renseignement, c'est un militaire américain, c'est un officier américain, dénonce la supposée désinformation de son gouvernement qui nous cacherait des choses. Il nous a accordé un entretien exclusif pour la France. Certains ne sont pas, sont un peu sceptiques. La drogue, c'est mal, nous dit Barnack. Paf ! Des ovnis sur le sol américain. Lisons une partie de l'édito de Tanguy de l'Espinet, qui écrit ce matin « Le tabou entourant le sujet des ovnis, longtemps abîmé par le folklore et les théories complotistes, est manifestement en train de sauter aux États-Unis. L'US Navy reconnaît désormais, ça c'est l'armée américaine, la marine américaine, ça c'est vrai, que ces pilotes ont observé des phénomènes inexplicables, pas forcément dire que ce sont des extraterrestres, mais que ces phénomènes ne sont pas expliqués aujourd'hui. » Et des vidéos sont déclassifiées et diffusées par des équipes d'investigation dédiées à la NASA comme au Pentagone. Et aujourd'hui, donc, un cadre du renseignement affirme que les États-Unis ont récupéré et étudient une technologie d'origine, a priori, non humaine. Impossible de dire si ce qu'il dit est vrai. Le Parisien ne dit pas que les affirmations de ce monsieur sont vraies. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il le dit. Voilà. Nous avons interrogé nous-mêmes ce jeune vétéran de l'armée qui n'a rien d'un zinzin de l'espace au vu de sa carrière. Bon, c'est quelqu'un qui a une carrière jusque-là, qui apporte une forme de crédit à ses propos. Des ovnis sur le sol américain, pour interrogation. Un vétéran de l'armée de l'air des États-Unis, qui est cadre du renseignement devenu officiellement lanceur d'alerte, il vient de se placer sous la procédure de lanceur d'alerte, puisqu'il estime que les gens doivent savoir un petit peu, c'est l'idée, affirme que son gouvernement exploite depuis des décennies du matériel exotique, comprenez, qui ne serait pas d'origine terrestre et humaine, issu de crash. Un officier du renseignement américain travaillant sur les ovnis dit avoir communiqué à sa hiérarchie en 2021, voici l'info, des informations attestant de l'existence d'engins d'origine non humaine, selon des documents évoqués cette semaine par plusieurs médias, que notre journal a pu consulter. Dans un fichier daté du 6 avril 2023, portant l'estampille du département de la défense, David Charles Grush, donc c'est le monsieur, avance l'existence de programmes secrets américains menés depuis des décennies, je sais, on est un petit peu dans un film, visant à exploiter, à analyser du matériel, je cite, d'origine exotique, comprenez, inconnu, issu de crash, d'atterrissage, de panne, de phénomènes aérospatiaux non identifiés pour mieux en comprendre le fonctionnement. Au vu de son pédigré et du risque encouru en cas de parjure, il est peu probable que l'officier David Grush prenne le sujet à la légère, vétéran de l'armée de l'air. Il est employé à un échelon correspondant à celui de colonel par l'Agence nationale de renseignement géospatial, une antenne du Pentagone. Il y a travaillé comme conseiller technique pour l'analyse des phénomènes aériens les plus curieux. Voilà un petit peu pour son pédigré. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Ici, David Grush parle de l'existence depuis des décennies de programmes secrets visant à faire de la rétro-ingénierie, l'étude des propriétés d'un objet pour déterminer son fonctionnement interne, sur du matériel donc d'origine exotique. Excusez-moi, il y a Nounou des enfants qui m'écrit. Ok, il y a Solal qui arrive nous faire un petit coucou. Intact ou partiellement intact, récupéré depuis au moins, donc ce matériel, 1933, cette exploitation serait conduite par le gouvernement, ses alliés et ses sous-traitants de la défense, le but selon lui d'analyser leurs propriétés à des fins militaires. On est totalement dans un film. Généralement, l'analyse au cours des 80 dernières années a déterminé que ceci est d'origine exotique, voilà, dit le document, aurait été étudié pour parvenir à cette conclusion, la morphologie des véhicules, donc qui auraient été récupérés, leur composition, leur diffraction des rayons X ou encore leur signature radiologique. Au cours d'un entretien que ce militaire a consacré aux Parisiens, David Grush mentionne un vaisseau de grande taille prétendument retrouvé dans la ville de Magenta en Italie. Voilà. Je ne lis pas l'interview du monsieur. À un moment, il dit que les États, les pays qui participent actuellement à ce programme de rétro-ingénierie pour comprendre le fonctionnement, l'histoire de ce véhicule soi-disant extraterrestre, ces pays sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Non, pour la Belgique, c'est pareil. C'est moi qui l'ai rajouté. Voilà. Que penser de tout ça ? Joli. Bon, Cyril est en colère. Ce mec raconte n'importe quoi. Magenta, c'est pas une ville, c'est une couleur. Bon, là, je reconnais l'humour de mes viewers. De toute façon, Maître Gims les a percés au grand jour, ça ne sert plus à rien de nier, dit Orévin. Les Égyptiens, tout ça. Voilà. Je valide l'humour de Beginner. Du coup, les objets sont dans des îles, puisque ce sont des objets exotiques, bien sûr. Solal va-t-il demander des chocolats à la question ? Je pense, Nad Malek, tu as la réponse à la question. Nostrak, très suspicieux par rapport à toutes ces histoires. Il veut, ce militaire, se faire son beurre sur les théories du complot. Business as usual. J'ai encore un ou deux commentaires et après je vous emmène du côté de la santé du pape rapidement pour vous donner une petite info. Puis on ira retourner voir ce qui se passe à Annecy, ce qui s'est passé à Annecy. Quoi. Ah, il y a Beer Hexen qui rajoute une info dans le chat. Merci à toi. Il sort un livre dans un mois, Samuel le monsieur. On comprend peut-être le pourquoi du comment. Pour de vrai, le monde part en live, dit Dr Chai. Oui, ça, de toute façon, le monde part en live, on le sait. Ça. La lecture quotidienne des journaux, et hélas, nous le confirme. Défécateur officiel est avec nous, il nous dit le problème avec des propos ambigus de ce genre. Un matériel exotique, tout ça. C'est que les gens en font une interprétation systématique, c'est donc extraterrestre, alors que juste on ne sait pas en fait. D'ailleurs, dans les propos de ce militaire, il dit à aucun moment que ce sont des extraterrestres ou une théorie alien, quoi. Il dit juste qu'on ne sait pas, quoi. Très bien, bon, du scepticisme, hein. Allez, vous voulez qu'on aille voir un petit coup ce qui se passe à Annecy, là, le drame qu'on a évoqué, là, le, les personnes qui ont été agressées dans un parc par un homme armé d'un couteau. Voilà. Certains me parlent dans le chat d'un début de récupération. Dans les dernières infos sur lemonde.fr ici, le maire d'Annecy assure qu'il n'y a plus de danger, situation maîtrisée. Conférence de presse annoncée pour 12h30 dans 14 minutes. Un ou deux assaillants, c'est une question d'un lecteur du Monde. Un seul homme, selon le Monde, qui répond à cet internaute. Les témoins ont décrit aux différents médias une scène dans laquelle un homme attaque des enfants au couteau avant de prendre la fuite sous les cris. Voilà. Un homme, par ailleurs, a été arrêté. J'ai mon petit Solal qui débarque. Je vais couper la cam. Je suis là. Je suis... Quoi ? Quoi ? Un ballon ? Oh, mais qui te l'a acheté ? C'est un birthday ? Ah oui, mais il y a deux types de ballons. Il y a les ballons qui s'envolent, parce que dedans on met un gaz qui est plus léger que l'air, qui peut être de l'hélium par exemple. Et il y a des ballons, on met de l'air en fait. Et donc en fait c'est normal qu'ils tombent par terre. Mais c'est bien aussi.
Ouais,
c'est pas bien, mais c'est. Tu sais que j'ai ta peluche ? Celle que papy Damien t'a achetée ? La peluche que t'avais oubliée, elle est là ? Regarde, elle est là.
Ah.
Yes.
Merci papa.
Ouais.
Merci,
papa. C'est quoi comme peluche ? C'est quoi ? C'est quoi comme animal ?
Regarde.
Oh ! Oh ! Wait, what kind of animal is it ? En tout cas, il saute très très haut l'animal. Hein.
Oui.
Attention à ne pas tomber dans le café. Hein.
Est-ce un pingouin ? Tu es...
un lion de mer peut-être. Ok. Et bravo. Solal, tu es allé à l'école ce matin ? Tu étais à l'école ?
Oui, à Titobert.
C'était bien ?
Regarde.
Qu'est-ce que tu as ?
Regarde.
Ouais, mais.
Regarde.
Oui, je regarde, mais après, il faut que je continue mon stream.
Wouhou !
J'ai le droit à un bisou ? Excusez-moi, je reviens dans un instant.
Oh, fais-moi un câlin.
Wouhou !
Tu vas rentrer à la maison, là ?
There is some bread. Yeah, you can take it if you want for if you want it. Eh, Solal, tu m'as pas fait de bisou ? Un bisou ?
Ok, c'est le bébé de papa, si je
un bisou.
Un bisou.
Attends, je te mets ta casquette. Je t'aime très fort. Attends, la casquette. Hey, n'oublie pas ta peluche. Bah, tu prends pas un chocolat ?
Non.
Tu prends pas de chocolat ?
Ah, il a mangé trop de gâteaux ?
Ah,
c'est incroyable. Ok. Pas de chocobon ? T'as mangé trop de gâteaux ?
Oui.
Ok, ok, c'est la première fois.
Okay.
Bye bye.
Ok.
Okay,
you
bring.
Oui.
Okay. Thank you, Rodéa. Petite parenthèse de douceur dans ce monde de brut. Solal passe quasiment tous les jours pour prendre un chocobon ici, les chocobons réservés aux invités. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure est-ce qu'on fait le pari, est-ce qu'il va prendre un chocobon ? Il n'a pas pris de chocobon. C'est la première fois que ça arrive. Il s'est bourré de gâteaux tout à l'heure. Il a 3 ans, c'est mon amour, c'est le petit. Il a un grand frère, c'est le kiff. Je reviens hélas à ce drame maintenant avec les réactions à ce qui s'est passé à Annecy. Donc un assaillant a priori arrêté. Le président Macron a réagi. Il dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. La nation est sous le choc, déclare le chef de l'État, assurant les victimes, leurs familles, les secours mobilisés de ses pensées. Ici, vous avez une vue du parc. Le jardin de l'Europe, c'est le théâtre du drame, c'est dans le centre d'Annecy, pour ceux qui connaissent. Voilà, un endroit où il y a plusieurs aires de jeu et une école. C'est la fois, vous avez la question d'un internaute qui s'appelle Arnaud qui dit « Est-ce qu'on connaît l'âge des victimes ? Je suis d'Annecy. Ma fille était en ville, je n'arrive pas à la joindre. » Réponse du Monde, les 4 enfants blessés sont en très bas âge. D'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, voilà, il y a un numéro de téléphone ici qui a été mis en place par la préfecture de Haute-Savoie, qui est le 04 50 33 61 33. Le bilan à 11h46 selon Le Monde est celui-ci, 5 blessés. Et vous avez 2 enfants et un adulte qui sont en urgence absolue, donc qui pourraient trouver la mort. Voilà. Tout à l'heure, on lisait un article qui nous disait que les enfants blessés avaient autour de 3 ans. Voilà. Une minute de silence à l'Assemblée tout à l'heure. L'interpellation, a priori, de l'assaillant est confirmée par le ministre de l'Intérieur. Selon l'identité déclarée par l'agresseur, quelle est la source ? Une source policière à l'AFP, l'agence France Presse. Selon l'identité déclarée par l'agresseur, ce dernier serait de nationalité syrienne, demandeur d'asile et inconnu de tout fichier de police. Voilà. On y reviendra dans les prochaines heures, bien sûr. Voilà. On n'est pas une chaîne d'infos ici, mais c'est quand même une affaire assez monstrueuse, donc c'est important de se pencher sur ces infos. Certains me parlent des réactions. Hein. Certains me disent être choqués par des réactions sur ce drame, des réactions politiques notamment. Un mot de la santé du pape. C'est une question qu'on a évoquée ce matin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de fortes inquiétudes autour de la santé du pape ces derniers jours, puisqu'il a subi une lourde... opération là récemment qu'il souhaitait éviter, puisque il y a quelques mois il avait déjà subi une opération sous anesthésie générale, il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre et là il y avait à nouveau une anesthésie générale, sauf que ses médecins l'ont convaincu qu'il fallait absolument la subir, cette opération. Le pape sera-t-il remis pour les JMJ au Portugal, les Journées Mondiales de la Jeunesse, c'est la question que pose le Parisien, mais les questions vont bien au-delà. C'est est-ce que le pape va se remettre suffisamment pour continuer à assumer sa charge de souverain pontife et voir sa santé, qui est déjà fragile, d'un homme qui, je crois, a 86 ans, ne risque-t-elle pas de continuer à décliner jusqu'à... voilà. 2 ans et demi après une première et lourde opération du côlon, le pape François a subi une nouvelle intervention. Ce mercredi, sa santé se dégrade au point de peut-être compromettre son voyage prévu cet été. Des pépins de santé, dit le Parisien, qui relance les spéculations sur la possible renonciation du pape, hein, parce qu'il peut renoncer aussi. Alors il peut démissionner, même si ce n'est pas le terme consacré, il peut renoncer à sa charge. À sa fonction. Pour un homme à la santé fragile âgé de 86 ans, comme l'est Jorge Mario Bergoglio, l'opération de 3 heures qu'il a subie n'est pas sans risque. Cette seconde anesthésie générale va-t-elle l'obliger à ralentir le rythme des voyages qu'il avait repris avec un bel appétit depuis l'été dernier, voire à rendre les armes, autrement dire à abandonner sa charge, hein, comme il s'y était engagé si jamais sa santé ne lui permettait pas de continuer. Jusqu'au 18 juin, repos obligatoire, donc 10 jours pour le pape argentin, une santé qui globalement se dégrade à vue d'œil, écrit le Parisien, à tel point qu'au sein de l'Église de France, la question de sa démission éventuelle, voire de sa mort, n'est plus tabou. Ce matin, on avait le rédacteur en chef du magazine de l'hebdomadaire Le Pèlerin qui était avec nous sur France Info pour évoquer ces questions, notamment de ce qui était prévu en cas de décès du pape. Il n'y a pas que le crochet marseillais, puisque le pape doit passer par Marseille prochainement, qui risque d'être compromis. Il y a aussi sa participation aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui sont début août à Lisbonne, Portugal. Aucun pape n'a jamais manqué les JMJ, rappelle l'historien Bernard Lecomte, si ce n'est pas François qui ira. Ce sera donc son successeur. Voilà pour ce petit point sur la santé du pape. S'il se passe quelque chose dans les prochains jours, c'est les infos que vous aurez. Merci Clotilde pour le Prime. Hazard 01, je ne sais pas si je t'ai remercié tout à l'heure. Je ne crois pas. ZX, merci beaucoup pour le 4e mois d'abonnement. DAU88 pour le 15e mois d'abonnement. Merci de votre soutien. Merci beaucoup Kayeto, vous êtes très nombreux à me faire des propositions de jeux vidéo et de gamers, de gameuses pour la nouvelle émission que je lance demain, 20h. Alors on est en mode bêta, on est en mode test. Le vrai lancement de cette émission, ce sera à la rentrée prochaine. Mais je fais deux émissions, voilà, test, bêta qu'on va essayer de faire les plus aboutis possibles sur un vieux machin, un vieux bout qui est moi à la découverte parce qu'il l'intéresse de l'univers du jeu vidéo. Je vous rappelle que je n'ai pas joué depuis 1988 et que ça risque d'être assez amusant. Je reçois demain 20h Kayane, la gameuse et la pratiquante d'e-sport avec Street Fighter le 6 bien sûr qui vient de sortir, qui est l'un de ses jeux préférés. Rendez-vous à 20h. L'idée avec l'émission qu'on va mettre en place à la rentrée en septembre, c'est de chaque semaine de découvrir un nouveau jeu, voilà, des jeux très différents, et de recevoir un gamer, une gameuse, un streamer, une streameuse, un créateur de contenu, quelqu'un qui travaille dans le secteur du jeu vidéo, voilà, pour qu'il me présente, un, son jeu préféré, deux, qu'il me parle de son rapport à ce jeu, qu'il me parle de son rapport au jeu vidéo en général et qu'il me parle de son parcours aussi. Donc ça n'est pas très 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 original, une émission sur le jeu vidéo sur Twitch. Quoique, je ne sais pas si on parle beaucoup de jeux vidéo sur Twitch. Je ne sais pas, je ne connais pas bien cette plateforme. Je ne sais pas s'il y a quelques streams autour de jeux vidéo sur Twitch, je ne sais pas, je ne suis pas très très au courant de tout. Évidemment, ça n'est pas très original, une émission sur le jeu vidéo sur Twitch. En revanche, ce qui peut être assez amusant, c'est le regard d'un journaliste sur cet univers. Voilà. L'idée, c'est qu'on ne va pas faire que jouer, on va essayer d'aller un petit peu au-delà de ça. Il y a deux émissions test pour répondre à Crapkit. Il y en a une ce vendredi et une autre la semaine prochaine. Petite surprise, petite suspense concernant le jeu choisi et le créateur ou la créatrice de contenu qui sera avec nous. Il y a Colmy Pénélope qui dit « Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des difficultés à prendre en main la manette ?» Le seul fait de ne pas savoir où se trouvent les touches, par exemple. Alors, soyez rassurés là-dessus, malgré mon grand âge, parce que, en fait, j'ai demandé à des gens un peu forts en technique de me préparer une manette spéciale avec des très grosses touches. Je ne sais pas si vous voyez les téléphones pour les personnes âgées, parfois. Vous savez, c'est des téléphones avec très, très grosses touches pour les chiffres. Voilà. Parce que souvent, la vue baisse et puis, bon, on est un peu moins de précision au niveau des doigts. Et en fait, j'ai une manette spéciale avec des très gros boutons. Voilà. Des couleurs très vives pour pouvoir les repérer. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Ça va bien se passer, je pense. Voilà. Rendez-vous demain soir, 20h. Voilà. Et puis après, je serai très preneur de vos conseils sur l'émission pour la faire évoluer au mieux sur le fond et sur la forme. Voilà. L'Arabie Saoudite dans le sport. Alors, ça part de Messi en fait, hein. Lionel Messi qui a annoncé que, bon, quittant le PSG, il a l'air assez en colère, il vient de faire une déclaration sur ses deux années passées à Paris, au PSG, qui sont pas super positives, en disant qu'il a pas eu trop de plaisir, que c'était pas top avec sa famille, tout ça. Alors j'ai pas bien compris s'il parlait uniquement du peu de plaisir qu'il a eu au PSG ou même carrément du peu de plaisir qu'il a eu à Paris ou en France, donc ok d'accord, bon, ça va vachement faire plaisir aux supporters du PSG ça, mais bon, il s'en va. On l'attendait peut-être au Barça, le grand retour. On l'attendait peut-être, je ne sais plus où, en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, la dernière offre qu'on lui aurait fait, c'est 1 milliard d'euros, de dollars, je ne sais plus, disons de dollars, sur 2 ans. 1 milliard sur 2 ans. Et il aurait dit non, voilà, et il partirait à l'Inter. Pas l'Inter de Milan, mais l'Inter Miami. Hein. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais bon, c'est le club de David Beckham. Et certains, salut Touristi, bonne journée, certains se disent, mais pourquoi il a refusé un chèque d'un milliard et d'autres expliquent que finalement, son intérêt économique et financier, il pourrait être aussi très intéressant à Miami, où il pourrait devenir actionnaire du club. Voilà, bon, on sent que il y a beaucoup d'enjeux financiers là-dessus. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. C'est ça. Et on reparle de l'Arabie Saoudite. Voilà. Bon, la carrière de Messi, moi, je suis pas un grand passionné de sport et de foot. Toi, je ne vous ai même pas montré la une. Okay. C'est la une de l'équipe. Voilà. Le nouveau hit de Miami, c'est là. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette histoire. Et là, par contre, on revient à la politique. Et précisément à l'actualité internationale. L'incroyable offensive saoudienne, page 8 et 9 dans l'équipe en matière de sport et de soft power. L'Arabie Saoudite veut s'imposer comme un acteur incontournable du foot business, malgré les critiques sur ses violations des droits humains. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, je pense que vous êtes au courant, et Karim Benzema, je pense que vous êtes au courant, elle prépare sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de football. Vous avez aimé ou pas, d'ailleurs. La Coupe du Monde au Qatar, ici on avait pris une décision un peu particulière par rapport à cette dernière Coupe du Monde, on a beaucoup parlé. Eh bien, l'Arabie Saoudite est en train de préparer une candidature à un prochain mondial de football. On remet ça, quoi. Je lis. La désignation par le congrès de la FIFA, du ou des pays hôtes de la Coupe du Monde, on parle de la Coupe du Monde 2030, hein, c'est dans pas très longtemps, c'est l'édition du centenaire en plus, interviendra à l'automne 2024. Donc la décision va être prise là à l'automne prochain. Attends, 2023, non, faut qu'on finisse cette année, donc l'année d'après. Okay. Face aux pré-candidatures, alors plutôt de grouper, il y a une candidature Maroc, Espagne, Portugal. Hein. Il y a une candidature Argentine, Chili, Uruguay, Paraguay. Et bien du coup, l'Arabie Saoudite envisagerait un ticket aussi avec deux autres pays que sont l'Égypte et la Grèce. Sauf que du coup, le ministère des Sports égyptien récemment a annoncé son retrait de son pays de cette course pour 2030. Donc il ne restait plus qu'un ticket entre l'Arabie Saoudite et la Grèce. Pourquoi l'Arabie Saoudite voudrait organiser cette Coupe du Monde de football ? Première puissance économique du monde arabe, l'Arabie Saoudite est dirigée de facto par le prince héritier et autocrate Mohamed Ben Salman, hein, MBS pour les intimes. L'assassinat sordide dont on a beaucoup parlé ici du journaliste du Washington Post Kamal Khashoggi par des agents du royaume en octobre 2018 et dont MBS est soupçonné d'être le commanditaire aurait temporairement gelé ses velléités sous le flot des indignations officielles, y compris des États-Unis à l'époque. Mais la réelle politique est passée par là, comme le dit si bien l'équipe, et les relations diplomatiques ont été rétablies entre l'Arabie Saoudite et d'autres pays. On se souvient, il n'y a pas très très longtemps, d'une poignée de main entre Mohamed Ben Salman et le président Biden, par exemple. Donc la réelle politique a repris ses droits, alors que la guerre russe en Ukraine monopolise les regards depuis 16 mois. Et l'Arabie Saoudite, eh bien, en profite. Concentré sur le programme de diversification économique du pays et sa vision 2030, hein, c'est le nom du programme, pour sortir de sa dépendance vis-à-vis de la rente pétrolière et l'extension de ses domaines d'influence diplomatique, notamment au Moyen-Orient. Comment on sort de la dépendance pétrolière? Notamment par le tourisme, et pour ça il faut une image plutôt sympa, et c'est là où le sport et les milliards investis commencent à avoir un rôle. Alors, il y a la Coupe du Monde 2030, mais il y a déjà les répétitions qui sont prévues, puisque l'Arabie Saoudite sera l'hôte de la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui sera en décembre prochain. Début février, elle a également obtenu l'organisation de la Coupe d'Asie 2027, on en avait parlé, Coupe d'Asie 2027, voilà. Son intégration dans les cercles internationaux du sport et sa montée en puissance sur les grands événements est en train de s'accélérer. Le premier exportateur mondial de pétrole organise notamment sur ses terres le Dakar et un Grand Prix de Formule 1 qui est à Jeddah. Il finançait un circuit de golf dissident, hein, du circuit PGA. Ces deux circuits viennent de fusionner. Quant au ministre des Sports saoudien, il a fait part l'an dernier du souhait de son pays d'accueillir les Jeux Olympiques, les JO, étant l'objectif ultime. La Coupe du Monde de football 2030 ne serait qu'une étape vers l'organisation par l'Arabie Saoudite. Malgré les problèmes notamment liés aux droits de l'homme dans ce pays, l'organisation des JO serait l'objectif ultime. En octobre dernier, sa désignation pour accueillir les Jeux d'hiver asiatiques, hiver en Arabie Saoudite, donc à l'époque on a cherché à comprendre, à l'horizon 2029, a suscité de nombreuses interrogations. La compétition devrait se dérouler à Trojena, qui est un secteur montagneux de Neom. Donc on sait déjà qu'ils vont installer un maximum de canons à neige pour pouvoir fabriquer la neige nécessaire. Neom, mégalopole futuriste en construction au nord-ouest du pays, vous avez peut-être vu des images assez hallucinantes sur internet, près de la mer Rouge qui cristallise la folie des grandeurs du prince héritier saoudien. Un projet d'un montant délirant, plusieurs centaines de milliards de dollars, dont la faisabilité est mise en doute par des architectes, par des scientifiques, et qui suscite encore la polémique sur le terrain des droits humains. Début mai, des experts de l'ONU ont dénoncé les exécutions prévues de 3 membres d'une tribu saoudienne, opposée à ce projet immobilier, qui entraînerait par ailleurs des expulsions forcées. On parle du problème des droits de l'homme, voici un exemple. Dans sa quête de réhabilitation, l'Arabie Saoudite a également profité de la fin du blocus imposé au Qatar en janvier 2021 pour boucler 9 mois plus tard la reprise de Newcastle, qui a été rachetée à 80% par le fonds souverain saoudien, et qui s'est qualifié, on le rappelle, pour la prochaine Ligue des Champions. Ça n'est pas tout. L'offensive saoudienne sur le front du sport passe aussi par un projet de privatisation et d'investissement des clubs lancé en juin par le pouvoir. L'affiche en vitrine de star absolue du jour. On a parlé de Ronaldo. On a parlé de Karim Benzema. Voilà. Le Royaume rêvait donc, et on revient à notre première info, d'installer sur son sol Lionel Messi, parti du PSG, pour ses derniers feux, mais l'Argentin a finalement porté son choix sur, je vous le disais, l'Inter Miami. Déjà partenaire de luxe de Visite Saoudi, l'office de tourisme local, parce que Messi est déjà partenaire de l'office de tourisme saoudien, le champion du monde en titre argentin, qui aura 36 ans à la fin du mois, avait été la cible d'une offre extravagante à 1 milliard d'euros sur 3 ans. Certains dans le chat disaient 1 milliard et demi, même sur 3 ans. On ne saura pas au final, puisque l'offre n'a pas été bouclé. Red Wine, par exemple, parle effectivement de 500 millions par an sur 3 ans, donc on arrive bien à 1 milliard d'euros du délire total, dis-tu, sur 3 ans. C'est vrai que les chiffres sont juste hallucinants. Je vous lis un petit peu sur l'Arabie Saoudite, les ambitions de l'Arabie Saoudite en matière sportive et de soft power. Bien sûr, Tom Froms, qu'on suit la guerre en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne, je pense que dans les prochains jours, je vous lirai des articles là-dessus. C'est marrant parce que là, on va, si jamais le mondial de 2030 de football est attribué par la FIFA à l'Arabie Saoudite, là on va retrouver le débat qu'on a eu sur le Qatar aussi, vous vous rappelez? Voilà, exactement, du pur soft power. Bon, on va finir avec un dernier article sur ce stream de 2h49 et qui va donc passer tranquillement la barre des 3h, ce qui nous fait un petit stream sympathique. Puis après, j'irai dormir parce que je manque un peu de sommeil. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Une petite moyenne de 3h par 24h parce que j'avais pas mal de rendez-vous dans la foulée de la matinale de France Info, notamment pour préparer les prochains streams. L'émission de gaming là, de vendredi. Et puis un petit stream dans un musée là. Ben, pas ce samedi, mais le samedi d'après. Je vous dévoile ça dans pas longtemps. Et donc la petite sieste et petit footing après. Un petit coup d'œil aux échos, voilà, qui a pris une douche de café tout à l'heure. Voilà, ici. Voilà. Donc, mais on s'en sort bien avec la solution de paiement de demain, qui est où le post-it a été mangé par le café, qui est là. Voilà. Demain, on va payer avec sa main. C'est drôle ça. C'est drôle, je sais pas si c'est drôle. Mais j'étais pas au courant de ce truc. La paume de la main, ce nouveau moyen de payer. Merci Cyrumène, rendez-vous à 20h. Crotilde, merci pour le prêt. C'est qui les invités de vendredi? Mais Wen, suis, c'est fini les invités de vendredi. L'hebdo Étienne est en vacances. L'hebdo Étienne, l'émission du vendredi de retour sur l'actu de la semaine, est en vacances jusqu'en septembre prochain pour la saison 2. Ce qui commence demain à la place pour deux émissions avant les vacances d'été, eh bien c'est les premières émissions de mon émission de gaming qui s'appelle Sam Play, le titre le plus claqué au sol. Sam Play, mais je le kiffe. Voilà. L'hebdo Étienne en vacances revient à la rentrée si bien sûr je trouve un parrain, un sponsor pour la compagnie, sinon ce n'est pas possible. Donc demain on va pouvoir payer avec sa main après Amazon One, la solution lancée par le géant de l'e-commerce en 2020 aux États-Unis. Donc il y a déjà eu des trucs en la matière. Ingenico et Worldline travaillent d'arrache-pied. Excellent. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. D'arrache-pied pour peaufiner leur solution de paiement palmaire. C'est super joli. Comment tu veux payer? Je vais payer en paiement palmaire. Bon. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de sortir votre carte bancaire, votre téléphone, votre montre connectée sera totalement has-been pour payer au magasin. Un simple geste de la main, comme ça, suffira. Payer avec la paume de la main pour en effet devenir une réalité quotidienne dans les prochaines années. Avec la paume. Hein. Si vous faites ça, ça ne marche pas. Si vous faites ça, ça ne marche pas. Il faudra faire ça. Un genre de stop, quoi. Concrètement, l'utilisateur associe une fois son moyen de paiement de prédilection, carte bancaire par exemple, à l'image de sa main, ça peut être une carte de fidélité aussi. Hein. On va dire que ça, tu vois, ça c'est ma carte bancaire, voilà. On va dire que ça c'est ma carte de fidélité par exemple, voilà. Bon, si je veux mettre une autre carte, je sais pas moi, ma carte vitale, bon bah là il faudra, là je pense peut-être qu'on pourra mettre un pied, mais il faudra être souple. Et ou l'autre pied, si t'as quatre trucs, mais à un moment tu vas te casser la gueule. Quoi. Donc on associe un moyen de paiement à sa main, et lorsque l'utilisateur veut payer en magasin, il n'a plus qu'à présenter sa paume en fait au lecteur. Amazon a été le premier à lancer cette technologie Amazon One en 2020 aux États-Unis. 150 magasins de la chaîne de supermarché Whole Foods l'utilisent déjà, certains restaurants aussi Amazon, des restaurants, des stades. Et en France, c'est bien ce qui me semblait d'ailleurs, que Ingenico était un groupe français. En France, le spécialiste des terminaux de paiement Ingenico, qui est une grosse entreprise, travaille d'arrache-pied, décidément je pense que c'est fait exprès, depuis 3 ans pour perfectionner cette solution. Voilà. L'identification par la paume de la main alors aurait un énorme avantage. Lequel ? En matière de paiement, c'est qu'elle est encore plus sécurisée que celle par empreinte digitale, tiens, reconnaissance faciale, ou encore par l'iris de l'œil, selon les spécialistes. Pourquoi ? Chaque empreinte palmaire est en effet unique. Bon, je pensais que c'était le cas aussi pour les empreintes, mais bon. Et le capteur développé par Ingenico peut distinguer la pression sanguine. Impossible donc de payer avec une simple photo de main. Ah, intéressant ça. Voilà. Moi, quand j'ai vu cet article, j'ai eu une vision un petit peu d'horreur et je me suis dit, mais comme le dit Pacrette Sympa dans le chat, bah, ça va couper des mains, quoi. Alors, si tu peux payer avec ta main... est-ce qu'on va avoir une espèce de nouvelle forme de délinquance où plutôt que de voler ton portefeuille, on te coupe la main, quoi. Mais bon, on nous rassure en disant qu'Ingenico développe un capteur qui peut distinguer la pression sanguine. Bon, si on te coupe la main, la pression sanguine elle va vite tomber, quoi. Voilà. Mais bon, si l'agresseur ne le sait pas, s'il collectionne les mains, qu'il n'est pas au courant, c'est très embêtant, quoi. Très embêtant. Voilà. Alors, plus sérieusement, Samuel me dit « Les empreintes digitales sont falsifiables alors que la paume de la main, non, puisqu'il y a le système veineux en transparence. » Je n'ai pas compris, mais je... Non, pas parce que tu n'expliques pas bien, mais je ne suis pas très très malin, mais ok, ok. Et oui, comme le dit Siro, et c'est là où on voit qu'on vit dans un monde un peu étrange, avant, on coupait la main au voleur, voilà. Hein, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, tout ça. Aujourd'hui, c'est les voleurs qui vont nous couper la main. Oui, et comment va faire Philippe Croison, demande Chiru. Oui, c'est vrai, oui. Et Marius écrit, et je valide, la petite vanne, on ne serra plus jamais la main à quelqu'un de pas peur qu'il dégaine un TPE. J'adore. Si t'as pas de bras, bah si t'as pas de bras, Miguel, tu ne peux plus payer. Voilà. Mais non, bah tu payes avec autre chose. Si t'as pas de bras, tu fais un chèque. Ou pas. Pardon. Je vais à la fin de l'article. Le geste est très rapide une fois que l'utilisateur est enrôlé, ce qui peut permettre de fluidifier les lignes de caisse des grands magasins, comme ça paye très très vite. Voilà. Donc ça peut débouchonner les bouchons de supermarché. Carbone, merci pour l'alerte info, mais en fait on a commencé à en parler il y a 2 heures de ce qui se passait à Annecy, mais merci en tout cas. Ça peut être le cas lors de concerts par exemple, hein, ou de matchs, de grands matchs de sport. Bon, ça permet de vérifier. Donc je suppose qu'on va pouvoir aussi genre enregistrer un ticket sur sa main et de passer très très vite. Cette méthode est aussi plus inclusive. Ah, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de smartphone ou de mot de passe. Mais en avant un des partisans de ce système. Convaincu ou pas par le paiement à la main, ça vous plaît ou pas ? Je suis d'accord avec toi, il y a Mi Yavi qui dit « Sinon, pour les bouchons de supermarché, on peut aussi embaucher des caissières, carrément. » Ouais, mais vous n'êtes pas super enthousiaste. Hein. Bof, bof, non, bof, inutile. Clamekin est chaud. Ouais. Ça sert à rien, ça fonctionne déjà très bien. Ouais. Bonne innovation pour Blueberry. Waouh, les amis,
Quel... Oh, double raid. Jean Massier nous a fait un très gentil raid tout à l'heure. Les amis de France Inter, à l'instant, nous font un raid. Merci beaucoup pour ce raid. J'espère que le stream s'est bien passé. Est-ce qu'il y avait l'ami Alex Visorex ce matin? C'est ça? Alex, si tu es là, et si c'est toi avec ton équipe, merci à eux, merci à vous et merci à toi. J'espère qu'on fera des trucs bientôt ensemble sur Twitch ou ailleurs. Merci beaucoup les amis de France Inter. Allez voir la chaîne Twitch de France Inter où il se passe des choses très intéressantes, notamment le jeudi matin. On est en train de parler du paiement par, par la paume de la main. Et, voilà. Ouais, l'émission, c'est pastèque, exactement. Et vous, alors vous arrivez à la fin de ce stream. Alors c'est très très bien d'ailleurs. Parce que du coup, les forces qui arrivent là, les forces de Jean Massier, les forces de France Inter, sont venues s'additionner aux forces de ce stream et aux viewers qui étaient avec nous ce matin. Et on va faire à nouveau, à nous, un petit raid dans un instant. On a évoqué beaucoup d'actualités. On a évoqué l'épilogue de la bataille de la réforme des retraites avec eh bien, le sort fâcheux réservé à la proposition de loi Liotte qui a fini par être retirée puisque... Le gouvernement de la majorité s'était débrouillé pour en vider sa substance. Donc, elle ne sera pas adoptée. Elle ne sera même pas débattue. On a parlé, hélas, de ces drames qui se sont produits là, ces dernières heures à Annecy ou encore l'enlèvement de cette fillette de 8 ans par son père. Il y a une alerte enlèvement en cours. On a évoqué beaucoup de choses. Voilà. Et je vous donne rendez-vous demain, a priori pas demain matin pour un stream puisque je vais essayer de prendre un petit peu des forces. Pour ce rendez-vous qui est pour moi assez important parce que ça fait très longtemps que je prépare et que je rêve même un petit peu de cette émission. C'est un peu mon projet le plus important là, voilà, aujourd'hui. J'ai très envie que ces deux émissions test demain vendredi et la semaine prochaine se passent au mieux. Papy Sam à la découverte du monde du gaming pour que à la rentrée eh bien, ça devienne une émission hebdomadaire et qu'on puisse découvrir sur 34 émissions eh bien, 34 jeux différents avec 34 gamers, gameuses, streamers, streameuses, créateurs, créatrices de contenu, voilà, pour explorer cet univers qui est assez fascinant et qui l'est de plus en plus. J'arrête de vous saouler avec ma promo, on va jouer et on va parler en même temps, bien sûr. Hein. L'idée, c'est de jouer, mais c'est aussi d'échanger avec nos invités et de répondre à vos questions. Voilà. Merci pour toutes les propositions. J'en ai noté déjà beaucoup. Ouais, j'espère que ça va être sympa. On me signale que l'alerte enlèvement a été levée. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Et j'espère, pardon, je vérifie que la petite fille a été retrouvée. Ça, ce serait formidable. Parce que si l'alerte enlèvement a été retrouvée, ça ne peut signifier que deux choses. Alors, il y a une chose auquel je ne veux pas penser. Et il y a l'hypothèse optimiste que j'espère se voir réaliser, qui est le fait qu'on retrouve cette petite fille. Donc là, j'ai un article de France Bleu qui nous dit qu'effectivement, l'alerte est levée, mais que la petite, qui s'appelle Malek Younes, n'a pas été... Ok, c'est trouvé. J'ai beaucoup hésité. J'ai vu un très joli stream là qu'on m'a proposé. Les choses de l'étagère, je crois que je suis allé voir. Quelqu'un qui était en train de faire de très jolies choses. Le problème, c'est qu'il était en train de mettre fin à son stream, j'ai entendu. Voilà. Après un stream de quasiment 4 heures, donc ça, c'était un peu dommage de le raid au moment où il allait cut. Dans vos propositions, j'ai trouvé ça n'est pas très original. Ah, attendez, je vois autre chose là. Si. Alors, c'est pas très original non plus parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est quelqu'un qu'on a emmené, qui nous a emmené récemment au musée. Récemment, mon dernier stream dans un musée, il y en a un autre qui arrive là en juin, dans 8-10 jours. Voilà, on ira pas à Paris, on va se régaler, je vous en dirai plus loin. Le dernier stream, c'était au Musée National des Arts Asiatiques, il y a quelques jours, au musée Guimet. On était accompagné de qui ? On était accompagné de Marie Palot et de Fakir, alias Foki, qui est une streameuse que j'aime beaucoup. Alors, on est dans le domaine de l'art, du dessin, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qui nous accompagnait au musée Guimet, c'était top. Donc, je charge le raid. Fakir, F-A-K-H-E-A-R, pour ceux qui se perdent en cours de raid. Foki, pour les intimes. Le raid part dans quelques secondes. Merci vraiment pour ce matin. Passez une belle journée. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Et demain, rendez-vous 20h pour une petite soirée chill. Je me lance dans le jeu vidéo. Je le fais très égoïstement parce que je pense que je vais y prendre beaucoup de plaisir. À demain. C'est parti pour le raid. À très vite.